Hey. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet nouvel épisode mensuel de la critique de Yugi. Merci d'être là ce mois-ci, comme à toutes les semaines. Et n'oubliez pas, profitez-en maintenant pour aller sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Allez appuyer sur le petit bouton.
Abonner. Télécharger.
Télécharger. Ou sinon, un petit rating.
Mais des étoiles.
Donnez-nous des étoiles. Peu importe la quantité d'étoiles. Donnez-nous quelque chose. Étoiles. Ça nous aide beaucoup à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche. Cette semaine, je suis accompagné de...
Bédu, bien sûr.
Alias Le Charru. Et on a également sa conjointe, Maryse, qui dessine à l'autre bout de la table.
Bonjour.
Cette semaine, ce mois-ci... pour cet épisode mensuel, mentionné également sur la page Facebook et dans les épisodes précédents, c'est un spécial à documentaire. On a écouté plein de documentaires pour vous et on va vous parler de ces documentaires-là puis de ce qu'on pense. Puis,
C'est une température pour écouter des documentaires. C'est le mois de novembre, ouais, là, exactement. Ça ralentit.
Et je pense que saison 1, on l'avait fait en novembre aussi. Je pense.
Faudrait valider, mais il y a de l'inspiration. Ouais. Si c'est le cas, là, on a de la suite des idées sans trop le savoir.
Donc, on a un grand total de 6 documentaires pour vous sur 2 plateformes différentes, Netflix et Crave. Donc, un petit peu de tout pour tout le monde. Et si vous avez une plateforme, mais pas l'autre, ben vous avez au moins 3 options à écouter. Les documentaires qu'on vous parle seront dans l'ordre de présentation. Hi, this is my penis. Yes, ou « Allô, voici mon pénis ». Inside the Mind of a Cat. Untold, de la série Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist. Suivi de Street Gang, How We Got to Sesame Street. Et ensuite, on tombe un petit peu plus hardcore avec The Anthrax Attack et Woodstock 99.
Dans le fond, les choix ont été faits, pas des documentaires sur des séries. On a fait des trucs là, qui, mettons, l'équivalent d'un film, 1h30 à 2h, pour justement pas se taper 14 épisodes d'une série documentaire. On a essayé de mettre ça concis, écouter un épisode d'une soirée, puis vous dire, ah, ben parfait, ben j'écoute celui-là. Et en une soirée, ça se fait bien.
Exactement. Donc, on va commencer tout de suite avec Hi, this is my penis. Documentaire québécois.
Absolument.
Donc, d'Urbania. D'où le Allô, voici mon pénis. Mm. Disponible sur Crave. J'ai pas noté le temps, mais je crois que c'est environ une heure.
45 minutes ou à peu près.
J'étais pas loin.
Ouais.
C'est réalisé par Jean-Philippe Parizeau et c'est animé par Kim Lévesque-Lizotte, humoriste, animatrice, principalement sur RTV, MaTV.
Oui, c'est ça.
Radio, Journal de Montréal, etc. Hugo, parle-moi de Hi.
Pour être bien honnête, quand je naviguais la section documentaire sur Crave, ça m'a attiré mon regard.
Quelle surprise, ouais.
Mais on voit pas de pénis. Ce ne sont pas les pénis qui ont attiré mon regard, mais juste le mot. Non, mais c'était comme, hein, quoi? Tu sais, le mot pénis dans un titre, on voit pas ça souvent. C'est ça qui a comme fait, hein, qu'est-ce que c'est ça? Je suis allé voir un petit peu la description. Le fait que ça soit québécois, ouais. Ça m'a intrigué, fait que je suis allé jeter un coup d'œil. Je décris un petit peu ce qui se passe dans le fond.
En gros, ça parle de dick pic.
C'est ça, c'est un peu le concept de la dick pic. D'où ça
pour
vient.
Pour franciser, photo de pénis.
Ouais, c'est ça. Ou photo de Robin.
Selfie de pénis.
Ouais, c'est ça. Pénis-fille.
En tout cas.
Donc, c'est ça, c'est que le phénomène du dick pic dans les dernières années, ils font, dans le fond, des rencontres avec. Des hommes avec des femmes qui en ont reçu. Il y a quand même, il parle de des études aussi qui ont été faites par des scientifiques, des chercheurs dans une université en Colombie-Britannique aussi. C'est quand même intéressant. Je me suis pas senti très visé, mais c'est pas de ma génération, je dirais. Ça trahit notre âge vénérable. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai parlé avec mes collègues qui sont plus jeunes que moi, et le fléau, ils parlent de Snapchat avec Tinder, tout ça, elles le vivent là, vraiment beaucoup, fait que c'est ça que j'ai remarqué là, en jasant avec mes collègues là, du documentaire, que pour elles, là, ça arrive j'allais dire fréquemment, là, les celles qui sont célibataires sur les sites de rencontres.
Ce que j'ai aimé, moi, il y a deux choses que j'ai quand même bien aimé. De un, tu l'as dit, les recherches scientifiques, disons. C'était quand même surprenant de savoir qu'il y a eu des recherches là-dessus, qu'il y a eu des recherches sur tout à cette heure. Faut se l'avouer, ils font des recherches sur qu'est-ce que le singe fait avec un robot. Pourquoi pas faire des recherches sur le dick pic. Mais c'était quand même intéressant qu'ils apportent ce côté plus scientifique du phénomène. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est la portion où elle parle, justement, tu l'as dit, du phénomène entre Snapchat et Tinder.
Oui.
Et l'expérience qu'ils ont faite avec ça, du fait que en dedans d'une semaine, elle avait, je me souviens plus du nombre de demandes sur Snapchat et du nombre de dick pics qu'elle reçoit dans une semaine, sans même avoir fait le premier contact, sans même avoir fait « Hey, salut! »
Oui.
C'est bang, très important, dick pic.
Oui, on laissait ça aller, puis une semaine plus tard, ils ont ouvert les messages, voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis c'était assez régulier.
Ce que je n'ai pas aimé, personnellement, c'est la simplicité du documentaire. Oui, les recherches, c'était sympathique, mais je trouve que ça allait pas vraiment beaucoup plus loin. Ils ont élaboré certains concepts, donc plus le dick pic au niveau hétérosexuel, le dick pic au niveau homosexuel, la différence entre les deux, ça c'était quand même intéressant. Mais sans plus ni moins.
Ben, il y a une étude, c'est ça, il y a peu de volontaires, on sort pas des conclusions très très scientifiques, plus des impressions. C'était bien, mais c'est ça, on voyait que c'était un documentaire, plus une émission, une petite recherche, mais c'est sûr que ça, on aurait pu, pour qualifier ça de documentaire, on aurait pu pousser plus.
Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, même la petite recherche qu'ils ont faite avec les quatre filles qui se font montrer des photos, puis des photos, puis des photos, puis à travers ces photos-là, il y a des dick pics, puis ils analysent la réaction du cerveau. Ok, c'est correct, c'est sympathique, mais moi, personnellement, en tant qu'auditeur, je m'en fichais un peu beaucoup de ce résultat-là.
Oui, je comprends.
Personnellement.
Mais ça, on voyait que le concept, la réaction, moi, ce que j'ai trouvé, de l'autre côté, c'est que la réaction était quand même forte à quelque chose qui était non sollicité. Là. Parce que, dans le fond, pour expliquer, ils montaient des images de chats, des images. À un moment donné, ils montaient des images de violence, plus dans des nouvelles, des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, au travers, ils envoyaient une photo de graines. Fait que là, le cerveau répondait quand même.
Même si la fille avait aucune réaction physique.
Ouais. On voyait que le cerveau réagissait même plus fort que avec les. Avec les images violentes ou graphiques, là. Fait que oui, ça laisse des traces, ça. Ça fait quelque chose, mais je trouve qu'il manquait un peu de substance dans le documentaire en général. Marie, une question.
Ouais, ben, j'aimerais bien donner mon opinion de
vas-y.
Fille.
Ben oui, vas-y. On allait
voir. Premièrement, je corrigerais mon épouse sur le fait que c'est plus de la nouvelle génération. Non, quand que MIRC et tout ça était en branle rapidement après le ASV à ce moment-là. Moi, il y avait le ça avant la dick pic.
Pour les jeunes de l'époque qui nous écoutent, ASV veut dire...
Âge, sexe, ville.
Ouais.
Donc, c'était la première question que la majorité des gens, je dirais 99,9% des gens commençaient avec ASV.
Je pense que tout le monde l'a même posé, cette question-là. Qu'on aimait ça, se le faire poser ou non, je pense qu'on... D'une façon ou d'une autre, au moins, on l'a tout essayé au moins une fois de commencer une conversation en disant ça.
Ah, ben en tout cas, pas moi.
Ah, OK.
Fait que je suis pas du monde, clairement. anecdote, je me l'ai fait demander live par quelqu'un dans la rue. Donc, c'est ça, c'était déjà un fléau à ce moment-là de t'essayer de discuter avec quelqu'un de n'importe quoi, puis m'en donner, tiens, je t'ai envoyé une photo de moi. Puis là, ben, en plus, c'était long à recevoir les affaires. Puis là, ben, quand tu ouvrais la photo, c'était la photo de sa graine en érection ou des fois qui était venu sur lui-même. Pis là, t'es comme, arc, mais pourquoi je voudrais voir ça? Je suis désolée, messieurs, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus laid qu'un pénis.
Ben, c'est ce qui ressort dans le documentaire.
Tu sais, c'est pas intéressant. Mm-hmm. C'est comme une affaire qui pendouille entre les jambes. Puis, Puis en même temps, je trouve que ces petits gars, de tout mettre là-dessus, tu sais, moi, je pensais à mes neveux de 2 ans qui se promenaient les foufounes à l'air, donc bien fiers de pouvoir montrer toute leur dominance au travers de leur petit pénis.
Mais tu vois que c'est une histoire de gars, parce que quand ils présentaient le côté homosexuel,
ouais,
pour eux autres, c'était bien normal.
C'est normal. Ah ouais, oui,
c'est tout à fait normal.
Puis ah oui, puis c'était du magasinage.
C'est du magasinage, puis c'est quasiment essentiel,
ouais,
de montrer ta dick sur une photo.
J'aime le terme magasinage. C'est vraiment ça. Mais je pense qu'à l'époque, avec les MIRC, c'était moins... Il y en avait moins en quantité, ou c'était moins instantané. C'est plus ça, là. C'est comme...
Oh, non.
Non, mais il y en avait. Ce que je veux dire, c'est que c'est...
Je pense que c'était peut-être juste moins médiatisé.
Ouais, mais tu sais, c'était là, tu peux en avoir 14 en ligne, tu sais, Snapchat, c'est toc, 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 toc.
C'est, ben, là, c'est sûr que maintenant, il y a une rapidité à cause de la vitesse d'Internet, ouais, on s'entend.
Tu prends ça sur ton, sur ton cellulaire. Là,
à l'époque, si quelqu'un est au téléphone, la photo, elle n'arrivait pas tout de suite. Là.
Dans, ouais, c'est ça.
Dans le lab d'ordi au cégep, là, tu sais, oui, c'est comme ouvrir la photo puis voir le pénis, tu faisais un saut en
ligne par ligne.
Oui, ça montait.
Oh my God,
non! Non, 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 delete, delete, delete!
Oui, vraiment. Donc, voilà.
Fait que c'est ça. C'était... je voulais faire comme...
Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est...
L'opinion de la fille versus ça. C'est moi, parfait. Je l'ai trouvé super intéressant. J'aurais aimé ça, moi, qu'il y ait plus de filles qui participent.
Mais c'est ça, ouais, que je dis.
Ouais, j'aurais aimé, ouais, ça, ouais, qu'il y ait des gars aussi qui participent, oui, à ça.
Mais il y a deux...
gars hétéros, gars homos. Tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, comme avoir un peu... plus grand, peut-être qu'ils ont manqué de temps, peut-être, sur l'idée, peut-être qu'ils ont manqué de volontaire,
peut-être le budget aussi.
De budget aussi. Mais moi, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, qu'on montre à quel point que ça ne plaît pas nécessairement. Mais en même temps, j'aimais la nuance toujours des filles qui disaient, il y en a qui aiment ça.
Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça.
Il y en a que ça surprend, ça les fait rire.
Oui, c'est
puis, vrai. Il y en a qui aiment pas ça du tout. Et j'aimais que les filles étaient toujours... Alors que le seul gars qu'il y avait là-dedans qui parlait comme s'il avait appris un texte par cœur et qu'il le faisait genre au théâtre d'été devant ses parents, là, que lui était très quasiment « l'homme est un méchant loup, tout est sur son pénis, depuis sa plus tendre enfance, on lui apprend que tout est par son pénis. » Puis là, j'étais comme « non, non, je suis pas d'accord avec ça. » Puis lui était comme très blanc ou très... noir, alors que je trouvais que les filles, au contraire, étaient très... Regarde, moi, j'aime ça. Tu sais, c'est comme... Mais je sais que mes chums de filles n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, fait que...
On voit, ça montrait aussi l'ouverture que les femmes ont à s'exprimer beaucoup plus facilement sur un sujet peut-être un petit peu plus tabou,
ouais,
que l'homme, qui en est la principale cause. Qui, clairement, il y en a qui sont... plus ouvert, mais que la majorité n'ose pas trop en parler, peut-être par gêne parce qu'eux-mêmes l'ont déjà fait, ou par gêne pour sa race en général, ou d'autres raisons. T'sais.
Mais l'essentiel, ouais, de tout ça, c'est si on le demande pas, garde-la
pour toi. Garde-la pour toi. Exactement. Exactement.
Yes.
Je suis allé voir les notes sur IMDb et sur Rotten Tomatoes et je n'ai fucking rien trouvé.
Non, j'aurais été surpris en effet.
Mais je l'ai trouvé sur IMDb, mais il n'y a juste pas de notes. Ah, okay. Non, je pense que c'est l'inverse. Je l'ai trouvé sur Rotten Tomatoes, puis pas sur IMDb,
okay,
mais il n'y a pas de notes de noter sur Rotten Tomatoes. Il n'y a, genre, y a comme plus de, pas eu de commentaires, rien. Donc pas de notes pour ces sites-là. Ta note à toi, Hugo, pour le documentaire de High This Is My Penis?
Je vais lui donner un 6 sur 10. Ça passe, mais j'aurais aimé avoir plus long, qu'on pousse un petit peu plus loin les recherches, ou en tout cas, on aille un petit peu plus loin. Donc, c'est bien. C'est en 45 minutes. Ça vaut la peine de l'écouter,
oh, ouais,
quand même.
Oh, ouais.
C'est encore un phénomène qui est beaucoup d'actualité. Fait qu'on jette un coup d'œil. Mais 6 sur 10 pour moi.
C'est un 6 sur 10 pour moi également. Puis je vais aller chercher, ouais, la note féminine.
Ben moi, j'irais un 7 sur 10.
Okay.
Et moi, j'aimerais que tous les jeunes garçons écoutent ça pour comprendre que leur future conquête, c'est pas ça qui les intéresse. C'est ce qu'ils aiment faire. C'est où c'est qu'ils aiment aller. C'est pas leur pénis.
Ça t'sais, peut être en effet un bon documentaire d'apprentissage.
Exactement. Je trouve que c'est ça. Pour le jeune homme et pour la jeune fille, parce qu'on s'entend que pour une jeune fille, là, c'est impressionnant en vierge à recevoir ça. Là.
Oui.
Tu débarques.
Surtout la première, puis tu t'y attends pas. Là.
Non, ouais, c'est ça. Là, c'est comme. puis ça te plaît pas, là, tu sais.
Il parle du contexte d'agression, là, c'est ça, d'un peu de ses...
Ben, ça fait un peu le gars qui ouvre son manteau dans le parc, ouais, je trouve. Ouais, exhibitionniste, mais c'est pas demandé,
dans l'anonymat,
c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas demandé, mais tu le fais pareil, tu sais, c'est...
C'est beau, on s'entend que c'est beaucoup plus facile de le faire derrière son ordinateur.
Ben oui.
Que dans,
exact,
le, dans la vraie grande entreprise.
Oui, user de 1243, là,
moi, on entend ça. C'est ça, 7 sur 10, et je conseillerais vraiment aux jeunes garçons d'écouter ça, oui. Exactement, et aux jeunes filles aussi, de l'écouter pour voir qu'elles ne sont pas seules à peut-être pas apprécier ça, ou elles ne sont pas seules à peut-être apprécier ça aussi.
Absolument.
Donc, alors, ça voilà. Vient démystifier un peu la force.
Alors voilà, hi, this is my penis. Allô, voici mon pénis, disponible sur Crave. 49 minutes que tu m'as dit, je crois.
45 à peu près.
Donc si ça vous ça vous intéresse d'aller écouter ça, disponible sur Crave. Et ben voilà, 6 et 7 sur 10 pour ce documentaire. On passe au prochain. Disponible sur Netflix, cette fois-ci, d'une durée de 1h07, donc encore quelque chose qui s'écoute très bien en fin de soirée. Documentaire qui s'appelle Inside the Mind of a Cat, donc à l'intérieur
de la pensée de
mon chat. réalisé par Andy Mitchell, quand même que je vous dirai qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait des documentaires animaux, c'est principalement ça qu'il fait. Narration de Neil Wilson. Qui est Neil Wilson? C'est un narrateur. C'est pas quelqu'un de vraiment très très connu. Qu'est-ce que Inside the Mind of a Cat? Ben, le titre le dit. C'est un documentaire qui parle de la psychologie du chat. En gros, comment le chat réagit à plein d'affaires. Comment l'être humain peut agir avec son chat. C'est un documentaire de chat. c'est cute, c'est super cute parce que ben, pour ceux qui aiment les chats, c'est super cute. Hein. Ceux qui détestent les chats.
Je pense pas que ça a été leur choix de départ.
Ben
là.
Voilà, c'est ça. Quoique, ça peut. Tu sais, des fois, le monde n'aime pas les chats parce qu'ils connaissent pas les chats. Ça peut peut-être aider ces gens-là à peut-être mieux apprécier l'animal. Ce que je dirais, c'est que pour ma part, et j'imagine que ça se pourrait que je parle au nom de tout le monde autour de la table, on a des chats dans notre vie depuis longtemps.
Quand même.
Pour moi, j'ai absolument rien appris, ou presque rien appris de nouveau avec ce documentaire-là. C'était comme plus un rafraîchissement, un rappel de tout ce que tu sais, de toutes les réactions que ton chat va faire. C'est carrément ça, le documentaire. C'est comment le chat réagit à son maître, comment le chat réagit à l'étranger, la queue du chat, les différentes positions, le miaulement du chat... les ancêtres du chat également, d'où émane ce caractère, ce comportement-là. Principalement, c'est ça le documentaire. Et honnêtement, moi, j'ai rien d'autre à dire.
Non, mais j'ai
pour le présenter, c'est ça.
C'est ça, j'ai appris, ben oui, c'est plus le côté, si je le dis, moins scientifique, des comportements, de la raison qui explique telle affaire. C'est ce que j'ai apprécié de. C'est des choses qu'on avait remarquées, là. Je veux dire, j'ai des chats depuis plus de 20 ans. Fait que je me dis, bon, ben, il y a des affaires que j'ai observé ces comportements-là chez mes chats au fil des années. Mais de faire, je veux dire, expliquer le pourquoi du comment. Ça, c'est le côté que j'ai apprécié. Si ça avait duré 2h30, est-ce que j'aurais terminé? Probablement pas. Tu sais, à 1h.
C'est 1h07, c'est un bon temps, l'écoute. Je pense.
C'était quand même intéressant à savoir, mais c'était pas. Ça n'a pas changé ma vie.
Pour ceux qui n'ont pas de chat ou qui viennent d'avoir un chat ou que ça fait vraiment pas longtemps qu'ils ont un chat, ça peut être un documentaire intéressant. Parce que justement, ça t'apprend comment réagir avec l'animal et ça t'apprend comment adapter ton comportement par rapport au comportement du chat.
Oui, c'est une bonne idée. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui.
Si le chat réagit de telle façon, ben ça t'indique « Ah, ok, ça veut dire ça, donc je vais pouvoir mieux m'adapter » pour le bien-être du chat et par le fait même, par le biais de mon bien-être à moi également. Ça, c'est une partie que j'ai bien aimée. Mais sinon, c'est vraiment pas un documentaire révolutionnaire.
Non, c'est Netflix qui l'a produit.
Ouais.
Souvent, les documentaires que je veux écouter animaliers, là, on va plus dans les trucs comme National Geographic.
National Geographic, ouais.
ou à la BBC, par exemple, qui vont aller vraiment plus loin, là, c'est comme...
C'est très surface.
Ouais,
c'est beaucoup très en surface.
On est généraliste beaucoup.
Non, voilà, c'est ça. Puis, tu sais, de dire, bon, inside the mind, ce qu'on voit vraiment à l'intérieur du comportement animal du chat, encore là, c'est très surface.
Ouais.
Par contre, il mentionne que au niveau des recherches, le chien prédomine vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des recherches. Et le chat, ça fait quelques années qu'il disait que vraiment les recherches ont été poussées pour aller plus loin.
Ouais, c'est parce que ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'on a l'impression que les chats se foutent de nous autres. Fait que ils font pas vraiment de recherche, peut-être. Ou les sujets ne collaborent peut-être pas autant que les chiens. Pour avoir les deux à la maison, la majorité du temps, mon chien collabore plus que les chats.
Ouais.
Quoique Prompto est vraiment collaboratif, là. Mais les autres qu'on a eu dans le passé auraient moins collaboré à des recherches.
Mais il explique aussi un peu justement le pourquoi que le chat est beaucoup plus indépendant que le chien. Puis, tu sais, le chien, il voit son maître comme un dieu tout-puissant,
oui.
Alors que le chat se voit comme le dieu tout-puissant.
L'humain est un outil pour les besoins du chat.
C'est carrément ça. Fait que, tu sais, il y a un côté d'humour, veut pas, c'est des choses. Fait qu'il y a des moments... cocasse avec l'animal, donc c'est cute, c'est sympathique.
Les vidéos au chat, c'est quand même le fun.
C'est très très drôle, sauf que il y en a tellement disponibles sur YouTube.
Oui, oui.
Que d'avoir rajouté ça dans un documentaire.
En effet.
Je pense qu'on dirait qu'ils ont voulu prendre ce qui était populaire sur YouTube, puis l'élever un petit peu en rajoutant un petit peu de propos scientifiques.
Mm-hmm.
Peut-être pas même que moi je l'ai vu.
Ça a du sens, je te rejoins.
Au niveau des notes, parce qu'honnêtement,
j'ai pas
vraiment grand-chose d'autre à dire sur ce documentaire-là. IMDb donne un 6.9 sur 10 sur 4200 votes, à peu près 4200 votes. Donc 6.9 sur 10, c'est quand même bien.
C'est quand même haut pour IMDb, c'est haut.
C'est quand même bien. Rotten Tomatoes, aucune note au niveau des critiques parce qu'il n'y a eu aucun commentaire de fait. Mais à peu près un petit peu moins de 50 commentaires pour l'audience pour une note de 74%.
Nous sommes dans l'impression que c'est des gens genre en famille avec des jeunes enfants qui ont écouté ça ou qui ont parqué l'enfant devant une vidéo pendant une heure pour faire la vaisselle.
Exactement. Je pense que ça résume quand même bien. Ma note à moi, je reste encore une fois dans le 6 sur 10. C'est bien, c'est sympathique, mais sans plus. Je suis content de l'avoir écouté. C'est une heure qui a bien passé. Mais je peux pas te donner plus que 6 sur 10 parce qu'encore là, c'est pas un documentaire qui révolutionne le documentaire.
Ça va être la même chose de mon côté. C'était bien, je l'ai écouté, je le réécouterai pas.
Voilà, donc un 6 sur 10 pour Inside the Mind of a Cat.
Je vais préférer flatter mon chat en écoutant d'autres choses.
Absolument, disponible sur Netflix. On passe au prochain documentaire disponible également sur Netflix. Documentaire sur deux épisodes d'une heure, donc un total de deux heures.
Bravo.
De la série, quand même, hein? J'ai fait mes maths. Et ça vient de la série Untold.
Oui.
Donc, deuxième saison de Untold. C'est une série documentaire sur Netflix depuis 2000. Je pense que la saison est sortie en 2019. Et la saison 2, 2021.
Ouais, 2021.
Quelque chose comme ça. Ouais. L'épisode dont on parle est sorti en 2022. C'est The Girlfriend Who Didn't Exist, donc la blonde qui n'existait pas.
Absolument.
Histoire sportive d'un joueur de football universitaire aux États-Unis qui... il s'invente pas une blonde, mais il se fait jouer un sale mauvais tour.
On utilise le terme catfish.
Catfish en anglais. Donc, c'est une personne qui a commencé à... qui s'est créé un faux compte Facebook et qui s'est mis ami avec du monde, dont ce joueur de football-là, Mantai Teo, de son prénom, qui jouait pour, à ce moment-là, qui commençait à jouer pour les Irish de Notre-Dame, qui est l'école connue de football universitaire aux États-Unis de par le film de Rudy et un autre joueur avant ça, dont il y a un autre événement.
Les Fighting Irish de Notre Dame.
C'est l'équipe universitaire la plus connue aux États-Unis.
Ouais.
Donc, Mantai Teo devient ami avec cette personne-là sur Facebook et de fil en aiguille, à force de se texter et de parler au téléphone également, ils finissent par avoir des sentiments. il finit par considérer cette personne-là comme sa petite amie. Et finalement, il apprend éventuellement que la personne n'existait tout simplement pas. Et là, ben, toute l'histoire médiatique embarque là-dessus. Grosso modo, c'est ça. Parce que je veux pas trop en dire, je veux quand même pas trop spoiler le documentaire, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas l'histoire.
Ouais.
Fait que tu sais, je veux pas trop en dire.
Tu sais, il y a des trucs qui ont fait les nouvelles, là, tu sais, que...
Mais c'est ça, si vous êtes un amateur de football, que ce soit NFL ou universitaire, vous avez sûrement vu l'histoire. Si vous êtes un amateur de sport en général, vous avez sûrement vu l'histoire. Donc, mais c'est pas nouveau pour vous.
C'est ça qui m'a amené vers là, en disant, j'ai déjà entendu parler de cette histoire-là. Le gars qui dédie sa saison, sa grand-mère décède, puis à sa blonde aussi, qui a un accident. Puis là, tu te dis, c'est comme surréel.
Ouais.
Finalement, peut-être un peu, ouais, c'est ça.
Ouais, tu sais, le documentaire explique qu'il y a justement des journalistes qui sont mis à douter de cette histoire-là et qui ont commencé à faire des recherches sur l'histoire, sur la personne qui s'était créé un compte Facebook pour réaliser que, ben justement, cette personne-là n'existait pas. Les photos avaient été volées à une autre personne. Ouais. Donc, c'est vraiment toute cette histoire-là de c'est un vol d'identité dans un certain sens.
Oui, pour créer un faux compte.
Pour créer un faux compte. Et Manti Te'o s'est fait prendre dans ce tourbillon-là. Veux pas, il a quasiment failli perdre sa carrière.
Oui.
Ça aurait pu lui coûter des... OK, mais non, c'est des joueurs de football, donc ça gagne des millions de dollars. Je serais pas triste en tant que tel s'il avait perdu ces millions de dollars-là, parce que c'est de l'argent que j'aimerais beaucoup avoir. Mais c'est quand même une histoire qui a failli lui perdre des millions et des millions de dollars. J'ai trouvé Manti Te'o très... Ben, ça le dit aussi dans le documentaire, il est très proche de sa religion.
Oh, ça, on le voit, c'est frappant.
Et le fait qu'il ait... Je trouve qu'il l'a pardonné particulièrement facilement à la personne en question. Moi, j'aurais jamais... Personnellement, moi, j'aurais pas pardonné. La personne, moi, je l'aurais pas pardonné, puis je l'aurais probablement amené en cours, puis je l'aurais saigné à blanc, parce que moi, j'ai trouvé ça affreux ce qu'elle a fait. Peu importe la raison qui l'a poussé à faire ça. Ça, tu sais, le documentaire explique ses raisons, puis parle avec cette personne-là, puis elle décrit son histoire. Ça l'a fait quasiment passer pour la victime, plus que Manti Te'o. Peu importe les raisons, ce n'est pas correct de faire ça à quelqu'un. Moi, je l'aurais saigné à blanco. Donc, que Manti Te'o l'ait pardonné si facilement, ça fait wow, « waouh, ok, cette personne-là a un cœur gigantesque. »
Ben, c'est sûr que, bon, il y a le côté religieux. C'est sûr que là, le documentaire est sorti en août 2022.
Ouais.
Les faits se passent, là, dans le fond, là, fin 2000, début 2010. Ouais, lui était drafté en 2013. Fait que c'est avant, là, les 3-4 années avant son repêchage. Donc, fin 2000, c'est début 2010, ouais. Là.
Et même le terme « catfish » n'était pas très, très connu, ouais, en plus, dans ces années-là.
Mais c'est là, parce que, ouais, en écoutant le documentaire, là, je me disais, « Ouais, mais il est donc bien tata, tu sais. » Au début, il s'est fait pogner. Puis là, tu analyses, puis là, tu te dis, « Ouais, en 2009, 2010, c'était le début de Facebook. »
Ouais.
T'avais des amis, puis là c'est drôle parce qu'en voyant des fois des souvenirs Facebook sur mon wall, je fais, hey, on s'envoyait des messages sur notre mur, il n'y avait pas Messenger. Puis là, c'est là que tu réalises, ah,
même,
okay.
même chose pour Twitter aussi, on voit les débuts de Twitter aussi dans le documentaire.
Et il n'y avait pas de call vidéo, on n'avait pas ça en fin, mettons 2009-2010, il n'y avait pas comme Messenger, il n'y avait pas de FaceTime. Oui, Marie. C'est une question.
Ben, c'est, en plus, la personne est tellement capable de transformer sa voix.
Ouais, ouais, ouais.
C'était à se méprendre, là. Je veux dire, pour une jeune fille au bout de la ligne.
Mm.
Je veux dire, même ses amis se sont fait piéger là-dedans, convaincus qu'il parlait
à quelqu'un.
À quelqu'un.
Fait qu'il se parlait au téléphone.
Fait que tu sais, tu dis, mettons, là, tu dis, OK, moi, j'ai déjà fait ça, je me suis un petit peu amusée, créé un personnage, c'est facile sur l'ordinateur. Mais donc, j'aurais jamais eu le culot de l'appeler, d'y parler, là, tu sais. Puis là, tu sais, d'être au point, tu sais, de m'inventer une famille, puis là, tu sais...
Ah, puis c'est pas juste ça, puis la personne avait plusieurs cellulaires, parce que les parents de Manti Te'o en parlent que, OK, j'ai parlé à un tel, puis quelques secondes après, je parlais à quelqu'un d'autre. Puis on se rend compte que c'était la même et unique personne qui était au cellulaire à chaque fois avec des voix différentes. Et il y a un des amis qui dit, sincèrement, il devrait donner son nom pour Disney pour faire des voix de personnages à la télévision, où il serait super bon.
Oui, fait que tu dis, rendu là, quand que tu peux justement pas nécessairement voir la personne parce que t'as pas ça encore, puis que la personne ait le culot de t'appeler et de te parler au téléphone, à un moment donné, ton cerveau, il fait une affaire. C'est sûr que c'est vrai, parce que si c'était pas vrai, la personne aurait inventé rapidement quelque chose, elle s'en serait sortie, puis...
C'est là.
Fait que tu sais, c'est là que tu te dis comme... Ben justement, tu sais, moi non plus, j'irais pas pardonner, là, jamais de la vie, parce que, je veux dire, lui, sa réputation est brisée à vie, tu sais, c'est comme...
Il y a eu quand même une carrière de 7 ou 8 ans dans la NFL. Je pense qu'il y a pas
ça autre chose. Sauf que tu vois dans le documentaire à quel point, quand il était pour Notre-Dame, les médias le vénéraient. C'était le joueur vedette. Puis quand l'histoire est sortie, il est passé du en haut de la montagne à en dessous de la montagne. Les médias l'ont trashé à côté sans même vérifier leurs faits. Puis les journalistes qui ont fait la recherche l'ont même dit. Je dis, comment est-ce que tu peux être journaliste et parler de ça sans vérifier tes faits avant?
Ouais.
Ça, c'était ça pour moi, ça a été débile dans ce documentaire-là de voir ça, à quel point les médias l'ont traché sans rien vérifier.
Puis ça prouve à quel point les gens préfèrent le mensonge à la vérité.
Ben oui.
Encore une fois, tu sais, ça prouve à quel point que c'était plus succulent d'aller dans le mensonge, ça allait faire un meilleur topo, que de faire ses recherches avant, qui en plus aurait demandé du travail de plus.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est...
Le temps de...
Moi, sérieux, tu sais, j'ai trouvé ça dommage à quel point que, justement, tu sais, c'est la personne qui a monté tout ça qui devient quasiment la victime.
Ouais.
Et que c'est lui qui demeure dans le rôle de l'idiot du village à avoir cru ça.
Ouais.
Alors que tu te mets dans ses culottes, tu te dis, parce que n'importe qui aurait cru ça.
Ben,
n'importe qui aurait cru ça, tu sais.
Ce que je dis au début, je le trouvais un peu niaiseux, mais c'est ça. Quand tu te mets à sa place, tu fais... Ben, je me serais peut-être fait pogner aussi.
C'est vrai. Surtout quand t'as le cœur généreux de même.
Ben, c'est ça. C'est ça, exactement. Le gars, il a tellement un cœur grand que dans un sens, ça le rend un peu naïf aussi.
Puis lui, en plus, il voulait, c'était le deuxième joueur natif d'Hawaï à s'en aller, à être éligible au repêchage de la NFL. C'était quand même une grosse étape pour lui. Ouais. Il voulait aider sa famille. Puis tout ça faisait que tu te dis, ben. Ok, ben c'est je peux comprendre qu'il se soit fait pogner, il a tout investi.
C'est vrai que le seul point que j'ai je me suis dit dans ma tête, j'ai dit ok, ben est-ce que moi j'aurais pensé à prendre mes clés, prendre mon char, puis d'aller carrément la voir, d'aller faire la surprise. J'ai dit tu me dis que tu vis là, ok c'est beau, je vais aller là. C'est peut-être ça qui a peut-être manqué à Manti Te'o d'aller, mais tu sais, puis il dit dans le documentaire que elle se trouvait tout le temps des raisons pour, oh non, viens pas me voir, j'ai ça, ou non, j'ai pas le temps, ou non, tu peux pas, je suis occupé de faire tout le long, mais tu sais, 3 ans de temps à tout le temps dire ça.
Ouais, c'est sûr.
Là, c'est peut-être là.
Ben, il a probablement été naïf, c'est sûr que là, tu parles, lui, mettons, Hawaï versus l'Indiana, là, c'est une bonne run pareil.
Ouais, mais quand il était pour Notre-Dame, il était pas à Hawaï, tu sais, il était.
Non, mais là, la personne, là, c'était en Californie, excuse, à Stanford.
Ouais.
À l'université, c'est ça.
Oui.
C'était à Stanford qu'il avait connu. Mais moi, je comprends. Sinon, aussi, le. Bon, il était. Il était quand même un peu naïf.
Il y a eu un peu de naïveté, mais tu te mets à sa place, puis il y a plein d'éléments qui font en sorte que n'importe qui d'autre se serait fait avoir.
Parce que quand tu l'écoutes, le documentaire, tu sais, moi, je suis pas. Je suis aussi accusateur envers la personne qui a fait de la café, mais j'ai une autre perception. On comprend qu'il explique, c'est sûr que c'est peut-être la façon dont le documentaire est monté, que lui au début c'était comme, il voulait vivre un autre côté de sa personnalité, puis tu sais, il a créé un personnage, il s'est comme empêtré dans son histoire, puis là il s'est comme retrouvé pris à dire, bon ok, ben, je vais continuer la game parce que ça va, il me pose pas trop de questions, mais à un moment donné, là ça chire, que là il fait comme, ok, oups, là je suis dans le mal, faut que je m'en sorte. Puis là, l'histoire, toute l'histoire, là, c'est là que ça dérape. Mais mon problème là-dedans, c'est que Manti Te'o a été. Puis on parlait du journalisme, le sensationniste, ils l'ont soupçonné tout de suite d'être dans le coup. Tu sais, bah, pour attirer la sympathie, sa grand-mère est morte, sa blonde a eu un accident, c'est-tu toi? C'est là-dessus.
Après ça, ça a été, tu le fais parce que tu veux pas prouver que t'es gay.
Oui, c'est ça.
Waouh!
Oh, ouais, c'est malade.
Ça, c'était intense, là.
Mais les deux journalistes de Deadspin, qui est un espèce de blog underground peu connu, eux autres, puis là, tu vois, ils sortent en entrevue, ils disent, on a fait un document Excel, ça. Elle, là, il a dit ça, là, selon tel article du New York Post, puis du New York Times, puis ils sont pas morts la même journée, mm-hmm. puis tu sais, là, tu dis, là, ça marche pas, puis c'est là que y a quelqu'un, ça leur met la puce à l'oreille en disant, il faut qu'on enquête là-dessus, parce que les, tu sais, dans les, en anglais, ils disent facts doesn't add up, là, mm-hmm. ça marche pas, ça fit pas, fait que là, là, tout ça a sorti. Ils ont quand même fait un gros travail, là, oui. Je vais leur lever mon chapeau, là. Ils ont quand même fait du bon travail pour réussir à mettre au jour là, le catfish.
Ouais. Puis ça m'amène à mon point justement, mon gros point négatif, et c'est la raison pour laquelle ma note est basse pour ce documentaire-là. Tout ça, on voit ça dans le deuxième épisode.
Oui.
Le premier épisode est excessivement long.
Ah, c'est long, il se passe rien.
C'est épouvantablement long, ce n'est que de la mise en contexte. Et c'est pratiquement uniquement juste l'autre personne qui explique sa version de sa vie à elle, de pourquoi qu'elle a tout fait ça. C'est long et pénible.
Je suis d'accord.
J'ai quasiment failli l'arrêter parce que je trouvais ça excessivement long.
Ben, moi, j'avais eu des commentaires comme quoi que c'était bien. C'est pour ça que je l'avais suggéré. Mm-hmm. Je disais, ah, j'ai eu des bons commentaires, on va regarder. Moi aussi, après la première heure, là, tu dis, là, va falloir qu'il se passe de quoi. Ouais. Puis là, au début, à la fin de la première heure,
oui,
il y a un punch, un
cliffhanger. Je te dirais le dernier 10 minutes. Hein.
Là, tu fais, oh shit, OK. Ouais. Là, je veux, ils ont bien monté leur documentaire, ouais. Là, si tu veux écouter le deuxième épisode. Mais
ça aurait pu être fait en un seul épisode. Hein.
Une heure et demie, on aurait pu faire le tour.
Ah, facile. Ouais. Facile, parce que toute la mise en contexte, ça aurait pu couper ça à genre 15 minutes, peut-être 20 minutes pour mettre un petit peu plus de fluff. Mais il aurait pu couper ça, c'était trop long.
Ouais.
Et c'est mon gros point négatif, la quantité de long. Même dans le deuxième épisode, il y a certaines longueurs, il y a certains moments où tu fais, OK, c'est beau, passe à autre chose, montre-moi d'autres choses.
Mm-hmm.
Et la fin m'a excessivement déçu, parce que je trouve que ça s'arrête flat.
Ouais, il manque quelque chose.
Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de voir, OK, Mantai est où, il est rendu où? Là, tu vois qu'il est rendu dans la NFL, puis il commence sa carrière, mais c'était en 2013, on est rendu en 2022. Qu'est-ce qu'il a fait? As-tu réussi sa carrière, maintenant, Théo? Comment il s'en est sorti? Comment va sa vie aujourd'hui? Ouais. Et même l'autre personne qui s'en est sorti sans aucune crise de conséquence.
C'est vrai.
Il s'est passé quoi avec cette personne-là? On le sait un petit peu parce qu'on on voit la personne dans le documentaire, mm-hmm. conter son histoire, mais en même temps, ça a été quoi sa vie après? Je pense que c'est ça qui manque à la fin, un petit follow-up sur... OK, il s'est passé ça, maintenant voici ce qu'ils sont devenus et comment ils ont engagé leur vie après cet événement-là.
Mm-hmm.
Je pense que ça le manque beaucoup. J'ai pas écouté les autres épisodes de Untold, mais j'espère sincèrement que les autres épisodes finissent pas aussi flat que ça.
Ouais.
Parce que ça m'a vraiment beaucoup déçu.
Mm. Et aussi, on se questionne, il a fini sa carrière en 2020 avec les Bears de Chicago.
Voilà. Il a quand même eu une bonne carrière, ça faut y donner. Ça a quand même... Des bonnes saisons aussi.
C'est un linebacker, là, beaucoup de plaqués au college. Il menait l'équipe. C'est un joueur très agressif. Un demi de coin, je crois, en français. Un bon linebacker. Il aurait eu, je crois que sa carrière aurait été plus longue s'il n'avait pas eu ça. C'est sûr que ça l'a starté un petit peu mal, sa carrière. Ce qu'il a fait, parce qu'il est en deuxième round, il était nominé quand même pour le trophée Heisman.
Je veux pas, sa première saison a été...
Ouais, c'est ça.
Justement, il sortait de cette histoire-là, ça fait que ça n'a pas été la meilleure saison qu'il pouvait avoir. C'est sûr que ça a retardé un petit peu sa poussée.
Oui. Absolument.
Au niveau des critiques sur IMDb, c'est un 7.2 sur 10, quand même, sur quasiment 5.6 000 votes. Donc c'est quand même bien 5.6 000
votes. 5.600.
Ouais, c'est ça. 5.6. Ah, 000. Regarde, okay, ça revient au même. Donc 7.2 sur Rotten Tomatoes. Absolument aucune note pour l'épisode.
OK.
Mais la note sur Rotten Tomatoes est sur la série Untold.
Ah, OK.
Et sur la série, c'est un 100% au niveau des critiques, mais sur 7 commentaires.
Ouais, mais là, s'ils font sur Untold, ils n'ont peut-être pas tout écouté
les épisodes. Ben, exactement. Et l'audience sur 27 commentaires, c'est sur 67%. Donc, tu sais.
C'est sûr que ça ne sera pas le plus gros épisode qu'on a avec les notes là, sur les sites de critique. Parce que le documentaire, c'est souvent c'est pas noté ou c'est peu noté.
Moi, pour ma note, comme je l'ai dit, ça l'a fait beaucoup baisser. Moi, c'est un 5.5 sur 10. C'est bas uniquement parce que ça a été tellement long à starter que j'ai vraiment failli décrocher. Le deuxième a vraiment sauvé la note, ce qui a donné au-dessus de 50%, heureusement. Mais le tout réuni ensemble, je peux pas aller plus haut que 5.5 sur 10.
OK. Mais moi, je vais aller à 7. Si je compare aux deux autres qu'on a critiqué avant, j'ai préféré lui aux deux autres.
Okay.
7 sur 10. C'est sûr que je suis un fan de football, je connaissais l'histoire, ben, si j'avais déjà entendu dans les nouvelles, je me disais, est-ce que je voulais en savoir plus. Il y a de la longueur, mais souvent, bon, tu fais un petit peu d'autres, tu sais, je faisais d'autres choses en même temps, ish. Fait que là, quand ça, les 10 dernières minutes du premier épisode, moi, en fait, que j'ai dit, ok, c'est bon, et je vais l'écouter, puis j'ai embarqué dans le deuxième épisode. Donc, pour moi, ça va être un 7.
Quand même, quand même.
As-tu une note à donner, toi, Maryse? On l'écoute
oui,
ensemble.
Ben oui, ben, je vais y aller avec... ben, moi, je ne suis pas une fan de football, non. Nécessairement.
Tu tolères le football, quand
oui,
je l'écoute.
Ben, oui, c'est ça, exact. Ça permet d'avoir de quoi regarder pendant que je fais mes choses. J'irais avec peut-être un 7 aussi, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Moi, j'ai pas senti cette longueur-là, mais moi, je fais partie des gens qui aiment ça quand on prend son temps pour bâtir l'histoire puis bien assurer son histoire. Fait que moi, au contraire, le premier épisode m'a beaucoup plu.
Okay. Okay.
Je trouvais que c'était amené un petit peu comme, comme à l'européenne, où est-ce que c'est plus long, où est-ce que, tu sais, on n'est pas tout de suite dans le fast-food. Là, on va tout te donner là. Là, tu vas être super satisfait puis tu vas pas passer à autre chose. Moi, j'ai au contraire aimé ça. Puis, ça m'a fait me dire, mais mon Dieu, il y en a combien sur la planète qui ont vécu la même chose et qui sont dans le silence.
C'est sûr.
Puis, oui. Autant, dans, ça se peut pas qu'il y ait juste lui, ben, qu'il y ait juste ces deux-là. Tu sais, c'est comme dans toute l'arrivée de tout ça, tu dis, il y en a combien qui se sont fait briser le cœur, briser leur vie, tu sais, qui dans ce mensonge-là, et dans les deux côtés, on s'entend, tu sais, c'est... Il y en a combien qui se sont rendus trop loin.
Ouais.
Tu sais, puis qui doivent vivre avec cette culpabilité-là ouais. jusqu'à la fin de leur jour, parce que qui va vouloir les écouter? De dire, ben, dans ma tête, c'était legit, parce mm-hmm. que ça me faisait du bien. Tu sais, on est à une époque très égoïste, où est-ce que, parce que c'est derrière un écran, on a l'impression que ça fait pas de tort à notre personne. Il n'y a pas de conséquences à ce qu'on est en train de faire. Et la journée que tu te rends compte qu'il y a des conséquences, ben, il est toujours trop tard. Ouais. C'est un peu le jeu du chaperon rouge. T'sais, ah, comme tu as de grandes dents. Ah, comme puis tu finis par être mangé. Puis là, ben, tu peux juste regretter d'être dans le ventre du loup. Fait que moi, ça m'a vraiment fait avoir une pensée pour tous ces gens-là qui ont vécu du catfish. Partout dans le monde, j'en doute pas. Des gens qui en vivent peut-être encore aujourd'hui.
C'est sûr qu'il y en a encore qui en vivent. Il y a encore du monde qui se font avoir par des faux textes et des faux emails. Fait que c'est sûr qu'il y a encore du monde qui se font.
Les princes africains qui ont besoin de 50 000 pour débloquer des millions.
Ça, ben, exact. Ça existe encore. C'est ça, parce que justement, le mensonge...
D'ailleurs, je l'attends encore, mon 5 millions.
Je le sais.
Le mensonge est tellement plus palpitant. Tu sais, je veux dire...
La vérité, c'est un peu plate, des fois.
La vérité, ouais. c'est un peu plate. Puis, tu sais, je vais revenir à, quand je parlais des MIRC, une affaire que je m'amusais à faire, c'est de voir entre ce que j'étais réellement et ce que j'inventais être, qu'est-ce qui était le plus intéressant. Et ce que j'inventais était franchement plus intéressant pour ceux qui se mettaient à me parler que lorsque je disais la vérité. C'est comme... Et à ce moment-là, je me faisais dire, c'est clair que t'es un gars. Et ça, c'est quand je disais la vérité.
Ah ouais.
Mais quand j'inventais tout de A à Z et que je beurrais épais, c'est là que les gens y croyaient.
Ouais,
et,
c'est...
et je trouvais ça comme fascinant ouais. jusqu'à temps qu'encore une fois, tu fasses comme un tapeur. Là, c'est... Moi, je sais que c'est pas vrai, mais clairement, toi, tu te fais à croire que fait qu'on va arrêter ça.
Ouais, la situation se produit encore avec tout ce qui est réseaux sociaux et sites de rencontres.
Ah, c'est
C'est
pas fou.
Mal plus intéressant de... parler à quelqu'un qui se dit être policier-pompier que quelqu'un qui se dit « moi, je suis comptable ».
Exact.
Peu importe la personne, que ce soit fille ou gars, va être beaucoup plus porté. « Ah ouais, policier, c'est donc bien le fun. Ah, comptable, ouais, t'aimes-tu tes journées? »
Fait beau dehors.
Fait beau dehors, tu sais, c'est ça. C'est beaucoup plus facile d'embellir, ouais. c'est plus attirant pour l'autre côté aussi.
Fait que c'est ça. Fait que tu sais, moi, j'ai vraiment... j'ai eu une pensée pour tous ces gens-là. Pendant que j'écoutais ça.
D'accord. Alors, 2-7, puis 1-5.5. Alors, on a un petit peu de tout. Faites votre propre opinion, comme à l'habitude, et allez jeter un coup d'œil sur Netflix pour la série Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist. On parle maintenant d'un autre documentaire disponible cette fois-ci sur Crave. Ça s'appelle Street Gang, ou je sais pas si Street Gang c'est le nom du...
Je pense que c'est une série.
Une série, ouais, probablement. How We Got to Sesame Street. Donc, bien évidemment, un documentaire qui parle de l'émission Jeunesse. Très connue. J'ai quasiment envie de dire mondialement, parce que je suis pas mal sûr que c'est connu mondialement.
Probablement.
Ou du moins en Nord-Amérique. En Nord-Amérique, si quelqu'un connaît pas la série Sesame Street, c'est quelqu'un qui n'a jamais écouté la télévision de sa vie. Donc, documentaire sur comment Sesame Street est venu à la vie, principalement.
Ouais. Les débuts.
Et comme... les débuts, c'est pour ses premières années qui
c'est balbutiement.
Oh. Qui était le créateur derrière tout ça, comment ça a été amené, les raisons pour lesquelles ça a été amené. C'est ça. Je peux pas vraiment mieux expliquer c'est quoi le documentaire. C'est vraiment quasiment les premières 2, 3, 4, 5 premières années, peut-être, de Sesame Street.
Ouais.
Ça nous explique justement que ça a été créé par... Ben, ça n'a pas été créé par John Stone. L'idée ne vient pas de John Stone. L'idée vient de la fille dont j'ai pas noté son nom.
La productrice?
Ouais.
C'est Joan Cooney.
Exactement.
Joan Cooney, qui est... C'est drôle parce que c'est une femme. On parle les débuts, c'est milieu des années 60.
Ouais.
Ses émissions ont commencé en 1969. Puis on parle des débuts, je pense, c'est 63, là, ouais, quelque chose comme ça. Okay, 66, ça a été...
Tu le vois dans les images d'archives,
oui.
Quand ils sont tous autour de la table, quand ils présentent l'idée, c'est juste des hommes, puis join.
Ouais, vraiment, c'est quand même c'est frappant.
C'est elle qui a le gros bout du bâton, là.
Ah oui, puis thumbs up, là.
Ah oui, ouais. vraiment.
Mais en fait, thumbs up pour toute l'équipe, parce que ces hommes-là, comme... lui laissait cette place-là.
Ouais.
Donc, elle était importante, même auprès de son équipe. T'sais, des fois, on fait comme, c'est une femme forte, oui, mais... T'sais, thumbs up pour tous les hommes qui ont fait, non, mais c'est normal qu'elle soit là, son idée est extraordinaire.
Ouais.
T'sais, c'est... On est toujours en train d'encourager la femme, mais il y a eu des hommes qui ont accepté ça aussi, t'sais, en arrière de tout ça. Fait que, moi, thumbs up à tout le monde qui sont en arrière de tout ça.
Tu parles justement de son idée à elle. Qui était même, son idée elle-même était révolutionnaire, parce que la raison que Sesame Street est venue au monde, c'est qu'elle s'est rendue compte à quel point certains groupes de jeunes, au niveau socio-économique et sociopolitique et tout ce qui est, etc., avaient un petit peu plus de difficultés à l'école, mais étaient capables de réciter des annonces qu'ils voyaient à la télé par cœur.
Oui, ils montrent une publicité de Budweiser où les enfants connaissent toutes les paroles de la publicité. Ouais.
Fait que là, c'est là vraiment que l'idée est venue. OK, mais on peut-tu amener l'apprentissage dans ce médium-là?
Parce qu'elle dit, la phrase qui m'a marqué, moi, elle dit, on a décidé de leur vendre l'alphabet.
Ouais.
Dans le fond, on va leur faire un commercial pour leur vendre l'alphabet, ce qui est le principe de Sesame Street.
C'est fantastique.
Ça fonctionne. Puis quand tu le regardes maintenant... Tu sais, moi, j'écoutais Sesame Street quand j'étais jeune, quand on a commencé à voir la télé en anglais, là, c'était PBS.
Notre fille a écouté Sesame Street religieusement.
Vraiment beaucoup. Tu sais, on parle de... Ça fait 52 saisons. Là, tu sais, c'est quand même un nombre impressionnant d'épisodes. Ouais. Et c'est ça, c'est le... OK, ben parfait, on va faire comme une publicité, mais on va à leur apprendre l'alphabet, parce que c'est vraiment la base au niveau dans Sesame Street.
De l'alphabet de A à Z et compter quasiment de 1 à 20, je crois.
À peu près, avec le count.
Ouais.
Et c'est ça, c'était leur idée de base de comment qu'on peut faire ça, parce qu'ils voulaient aider à rattraper un peu le retard que certains jeunes dans certains quartiers défavorisés et ou issus des minorités.
Ouais.
Avait du retard à l'école, il dit après un an, il y avait 3 mois de retard, puis là, le retard s'agrandissait. Il disait, faut qu'on fasse quelque chose.
C'est révolutionnaire en vierge.
Oui.
Tu sais, de dire, moi, je vais aider, tu sais, je vais tout faire. Eux autres, ils sont tout le temps sur la télévision parce que les parents n'ont pas les moyens d'autre chose. C'est un peu comme la gardienne.
Ouais.
Fait que je vais les aider, ce monde-là. Je sais même pas si aujourd'hui on pensera faire de quoi de même.
Il parlait de mémoire, là, je pense qu'il passait quelque chose comme 50 heures par semaine devant la télé.
Ouais.
C'est beaucoup, là. Ouais. Si je travaille 40 heures, là, c'est-à-dire...
Il montrait ce qui était fait pour enfants à l'époque.
C'était des publicité.
C'était de la publicité non-stop. Durant l'émission, le gars qui fait l'émission présente un produit, ouais. Achetez ça, vos enfants vont aimer ça. Il présentait des jouets, c'était épouvantable.
Ça me faisait tellement penser à les Simpsons
avec Krusty.
Avec
Krusty.
Ouais. Ah oui. Ouais.
C'est qui est tout le temps ça. Comme mes céréales, mon cadran, ouais. Mes... puis là, les robots chocolat. Tu sais, maman, ça nous prend les céréales robots chocolat parce ouais. Que sinon, ils vont mourir. Ça m'a vraiment fait penser ouais. À ça.
Donc, c'est ça. Une fois qu'ils ont comme mis ça en place.
Là, c'est là qu'ils ont amené John Stone.
Oui.
Que lui-même a amené Jim Henson également.
Oui, Jim Henson, que je ne savais pas, mais qui faisait des publicités ouais. Avant de faire ça.
Ouais.
On voit des publicités dans le documentaire. Là. C'est quand même très drôle.
Et puis c'est pour adultes. Là.
Ouais. Ce gars-là ne faisait pas de marionnettes pour enfants. C'était, il faisait des trucs pour adultes, des blagues pour adultes.
C'était, quand même, c'était un peu hardcore aussi là, ouais. Là, ce qu'il faisait. Là, c'était gras.
Oui. Oui, c'est ça. Là, ils arrivent là, puis ils soumettent le projet de travailler sur Sesame Street. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir comment ils tournaient les épisodes. Les marionnettistes sont debout. Ouais, les caméras ouais. Sont en hauteur.
Les
bureaux, par exemple, s'il y a un bureau ou une table, ben, dans les airs, parce que c'est normal, parce qu'ils doivent... Puis là, je parlais avec quelqu'un avec qui je fais du théâtre, puis il disait, si tu essaies de... Si t'es trop bas, ça fonctionne pas parce que ta marionnette va pencher vers l'arrière. Il dit, il faut que tu sois comme ça, puis tu regardes en bas, ça va faire le jugement, mais on le voit pas. Il y a un moniteur.
Voir ce qu'ils font.
C'est ça, puis la position de ton corps va être la bonne. Si tu as les deux bras dans les airs, puis tu regardes, mettons, à la hauteur du nombril de quelqu'un qui est devant toi, c'est ça qui va faire que ta marionnette va se tenir droite. Puis je savais pas, mais j'ai appris ça. J'ai vraiment aimé ce côté-là aussi. C'est sûr qu'il y a de la nostalgie, Jim Henson, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Là. On est fan des Mopettes, Maryse, à la maison aussi. Beaucoup de trucs là, que Jim Henson a fait avec Ryan Croft. Ouais, c'est ça. Tout ça fait que c'était le fun de le voir. Il est quand même décédé jeune.
Ouais, puis j'ai bien aimé qu'il présente aussi le décès de Jim Henson à oui. La fin du documentaire. Ouais, comment ça l'a impacté tout le monde avec qui il a travaillé.
Oui.
Dont Johnston qui fait l'ulogie durant ses funérailles, qui était vraiment très.
C'était super beau.
Ouais, c'était super beau.
Moi, le bout où le Big Bird parle du deuil, là.
Le décès d'un de leurs amis,
de Mr. Hooper.
Ouais.
J'ai admiré courage de faire ça, mm-hmm. Puis de le faire de la bonne façon.
Je l'aurais.
Puis ils disent comment tu présentes ça à un enfant, puis comment un enfant le percevrait.
Ouais.
Fait que c'est ça, fait qu'on va faire ça.
Exact.
Ça c'était hot.
Tu sais, puis il faut des couilles, là, sérieux, là, pour faire ça, puis faire passer ça à TV. Ouais,
il dit qu'il n'en parlait pas jamais.
Tu dis aujourd'hui, là, tout est tellement censuré que j'ai l'impression pour moi que les frustrés à la maison s'empresseraient de critiquer. Oh mon Dieu, on parle de la mort, puis pauvres enfants. Mais non, mais ça fait partie de la vie.
Oui.
Puis eux autres aussi vivent des deuils. Puis c'est pas toujours, des fois, pour des personnes. C'est des fois pour leurs animaux aussi. Ou pour un ami qui a déménagé. Puis, j'ai tellement trouvé ça beau. Même moi, en tant qu'adulte, là, j'ai eu l'impression d'en sortir grandi, de voir ce petit bout-là. Je l'avais peut-être déjà vu quand j'étais enfant, là.
Ben, ça date quand même, là.
Oui, mais je me rappelle du monsieur. Fait que peut-être qu'il repassait des épisodes,
c'est
là.
Oui, c'est sûr qu'il y avait des reprises.
En rediffusion, parce que je me souvenais du monsieur.
Oui, c'est...
Tu sais, puis je me souviens de la jeune, tu sais, demoiselle. Tu sais, je me souvenais des personnages jeunes.
Oui.
Fait que... Non, tu sais, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, si moi, en tant qu'adulte, je viens d'apprendre quelque chose pour, tu sais, être capable d'en parler aussi avec les autres. Tu imagines ça à quel point... C'est ça, j'admire le courage et je dirais, je pointe du doigt aujourd'hui le wattage. Tu sais, c'est comme... Oh, on va les protéger. Non, mais à un moment donné, ça fait aussi partie de la vie.
Non, c'est...
Ça explique aussi le... Parce que je veux pas, Sesame Street a été, je crois, la première série à mixer humains et marionnettes.
Oui, ça c'était jamais fait.
Et il explique justement comment ça a été apporté, en faisant des screening tests avec les enfants, comment ils réagissent. Puis je trouve que justement, les deux concepts se sont bien mariés ensemble.
Mais il expliquait qu'au début, c'était séparé.
C'est beau de voir les enfants y croire.
Ouais, vraiment beaucoup.
Tu dis, ces enfants-là voyaient le marionnettiste. Puis non, le marionnettiste, il n'était pas là.
Ouais, il expliquait que c'était des réactions, des vraies réactions des enfants. Ouais. C'était pas des textes
à apprendre souvent. Ça, les enfants, eux autres, apprenaient pas de texte.
Puis même les enfants des créateurs puis du monde qui travaille sur le plateau. Il y a des scènes où avec leurs propres enfants qui jasent avec la marionnette puis comme si c'était son meilleur ami de tous les jours puis comme s'il existait réellement. Ça fait réfléchir sur OK, voici l'esprit de l'enfant, comment qu'il perçoit tout ça.
Puis tu sais à quel point aussi c'était des enfants de toutes les sociétés, il y avait des enfants de tout. Puis il y avait des personnages de tout aussi. Puis encore une fois, quand tu te ramènes à l'époque, tu te dis, mais c'est extraordinaire.
Mais c'est ça
que... Tu sais, nous, aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal, mais...
Ouais, mais c'est genre, j'en parlais avec quelqu'un cette semaine. Il disait que comment j'avais... Tu sais, je l'avais écouté, j'avais aimé le documentaire. Mais moi, ça m'a jamais... Pas frappé, mais marqué qu'il y avait peu de Caucasiens dans les enfants. C'était beaucoup des gens issus des minorités. Mm-hmm. C'est vrai que les autres voulaient aller rejoindre ce type de client, cette clientèle-là, tout ça. C'est super bien fait, mais c'était, je pense que c'était dans l'œil des enfants. Puis on le voit même là pour souvent les jeunes enfants, pour eux autres, il n'y a pas de couleur, là, c'est des amis, point, tout ça. C'est vraiment intéressant, les acteurs, puis là, le gars qui jouait le Louis, l'hispanophone, il dit que c'était le premier rôle qu'on me proposait, que j'étais pas un vendeur de drogue ou un criminel.
Ouais. Le gars du dépanneur.
Ouais. Il dit, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle comme ça. Puis là, tu te dis, mais c'est vrai, tu sais, le casting aussi est souvent comme ça. Chez les gens de la communauté noire aussi, là, tu vois souvent, c'est
Tu sais, moi, je me dis, tu sais, en tant qu'enfant, quand tu vois ça, ben, ce que tu vois, c'est que tu peux être ami avec tout le monde.
Mm-hmm, vraiment.
C'est que tout le monde est tes amis. Oui. Tu sais, c'est. Fait que ça fait, tu sais, que tu viens blind out sur. Fait que qu'importe ce que tes parents racontent, qu'importe l'opinion, tu sais, alentour de toi, en écoutant ça, tu fais, ben non, garde, tu sais.
Oui.
Les monstres et tous les enfants peuvent être mes amis. Oui. C'est comme.
C'est ça, je disais tantôt que les scènes de marionnettes étaient d'un côté, les scènes avec les acteurs d'un côté. Puis, à un moment donné, ils ont dit, on va les mixer ensemble. C'était comme, comment qu'on va
faire
ça?
Parce que les enfants
réagissaient mieux ça. Quand il y avait des marionnettes.
Puis, ça, c'est des précurseurs. Ouais. Ils ont créé quelque chose que...
Et puis, tu sais, d'inviter des psychologues, des ergothérapeutes, des professeurs,
des vedettes aussi. Moi, c'est un line-up de toutes les vedettes qui ont été là.
C'est extraordinaire, là, tu sais, qu'il y avait tout ce travail-là arrière de ça, tout ce sérieux-là pour que ça fonctionne, là, tu sais, tu lèves 18 chapeaux, là, c'est merveilleux, là.
J'ai bien aimé aussi le de voir comment certaines marionnettes ont fait leur apparition.
Oui.
Par exemple, Grouch, Big Bird, à quel point il était affreux dans ses débuts.
Oui.
Excuse-moi, c'est vraiment étouffé.
À quel point il était...
Il y a une petite tête.
Une mini tête.
Juste pour une main.
C'était vraiment affreux. Et je pense que tout le monde s'en rendait compte également, puis ils l'ont fait quand même évoluer rapidement. Et ce qui m'a surpris, et pourtant c'était évident, mais moi je ne m'en souvenais vraiment pas du tout, mais les Muppets...
Moi, c'est José Kermit the Frog, on le voit.
Viennent de Sesame Street.
Oui.
Moi, j'avais toujours eu l'impression que c'était l'inverse.
Moi aussi, moi j'ai tout le temps eu l'impression que les Muppets
étaient des invités à ses amis.
Ben oui, mais non, ils faisaient partie intégrale de l'émission.
Ouais.
Et c'est vraiment là que là, à un moment donné, ils ont comme eu leur show à part. Puis c'est là que leur lancée a commencé. Mais tout a découlé de ses amis. Puis c'est quelque chose que moi, je ne savais pas.
Non, non plus.
Pas du tout.
Vraiment.
Je pense que pas mal tout a été dit.
Oui.
Sur IMDb, c'est un 8 sur 10. Sur à peu près 1100 votes. Et sur Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, sur 99 commentaires, c'est 95% de réussite. Et au niveau de l'audience, sur 50 et plus votes, 96%. Donc je pense que pour les documentaires qu'on parle aujourd'hui, c'est de loin celui qui a été le plus critiqué, le plus commenté. C'est lui qui a vraiment eu la meilleure note sur les réseaux. Ma note à moi, j'allais avec un 7 sur 10. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai appris plein d'affaires. Mais je l'ai trouvé peut-être un peu long. Et c'est pour moi, c'est ce qui a fait un peu baisser la note. Il y a certains... Oui, c'est super cool. Puis c'est le fun de voir les marionnettes et tout ça. Mais je pense que le raccourcir de peut-être une quinzaine de minutes, pour moi, ça aurait été amplement. Sinon, je pense que j'aurais donné un 8 sur 10. Mais parce que... je l'ai peut-être trouvé un petit peu long à mon goût. Je l'ai baissé à 7 sur 10. Mais c'est ma note.
Ok. correct, t'as le droit.
Exactement.
Faire des erreurs. moi, je vais avec un 8.5 sur 10. Okay. J'en aurais même pris un peu plus. Sur certains points, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus longtemps. T'sais, de plus d'infos sur le côté, peut-être, j'allais dire, éducatif, avec les psychologues, avec, tu sais, où ils parlent. Il aborde là, le sujet, mais j'aurais peut-être aimé, en tout cas...
À la limite, peut-être même avoir fait une mini-série, peut-être de 3 épisodes de peut-être 40 minutes chacun. Puis ça m'aurait rajouté un petit peu avec des thèmes. Là, peut-être que okay, oui, c'est peut-être plus facile d'embarquer à ce moment-là.
Mais j'ai beaucoup aimé, donc pour moi, c'est 8.5 sur 10. C'est sûr qu'il y a de la nostalgie là-dedans, mais je me ressors, si je vois vraiment objectif, là, c'est dans la liste, là, c'est un de ceux que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc 8.5 sur 10.
Oui, oui.
Moi, mon mari l'a dit tantôt, je suis une grande fan de Jim Henson et de Frank Oz, des Inséparables, depuis toujours. Moi, j'en aurais pris deux fois plus. J'ai adoré. J'écoutais ça quand j'étais petite. Je l'ai écouté adolescente aussi pour m'aider dans mes cours d'anglais. Pour tout me rafraîchir, parce qu'il faisait tellement le tour de tout, tu sais, sur. Puis, quand ma fille les écoutait, je pense que je les écoutais encore plus religieusement qu'elle. Fait que non, moi, je vais y aller vraiment avec un 9 sur 10.
Okay.
Puis, je me rappelle pas où j'avais entendu ça, mais à un moment donné, je sais qu'il y avait un hommage justement à Sesame Street et le nombre de gens immigrés qui remerciaient cette émission-là parce que les parents, en écoutant ça avec leurs enfants, étaient en train d'apprendre la langue où est-ce qu'ils vivaient maintenant. Fait que, tu sais, tu dis, mon Dieu, ça n'a pas juste aidé des enfants, tu sais, cette émission-là. Ça n'a pas juste donné des ailes aux enfants, ça en a donné à tellement de gens aussi.
Les communautés au monde.
Puis j'espère que ça va durer encore et encore et encore et encore. Tu sais, je leur souhaite de continuer ce beau message-là. Et non, je veux pas que Monster Cookie arrête de manger des biscuits parce que c'est pas bon pour la santé. Puis non, je veux... Tu sais, c'est comme, enlever pas de personnages. Ils sont tous parfaits. Et j'étais contente de savoir que le Grouch servait à apprendre aux enfants que c'est pas tout le monde qui est gentil dans la vie. Tu sais, ça, là, ça m'a comme... Puis on s'entend, je l'avais même pas remarqué en tant que qu'enfant que c'était ça. Je le trouvais très drôle. Je le trouvais très, très drôle, être tout le temps bougon, mais... Quand tu vois ça après ça, avec l'explication, tu fais « Ben, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Grâce à ça, tu fais que les personnes chialeuses qui sont jamais contentes de rien, ben, t'apprends à les apprécier pareil. »
Ça t'apprend que c'est OK d'être bougon.
Exact. Aussi, tu sais, que t'es pas obligé d'être toujours happy, tu sais, c'est... Puis la chanson de la couleur verte.
Ah oui.
La chanson
à Kermit, là.
Oui.
Sérieux, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Puis quand on voit les enfants avec les marionnettes en train de dire leur alphabet, là, ben j'ai pleuré aussi. Parce que c'était trop cute. Trop beau de vrai. Là. Tu dis, en tant que parent, tu sais, d'avoir fixé ça dans le temps, ce petit moment-là, là, du rigolage d'enfants, là, mais tu sais, de tout cœur, là.
Ah, c'est ça, quand ça t'avait Grover?
Oui.
Puis que la fille a...
Puis c'est Monster Cookie!
Oui.
Puis là, elle rit.
Oui, c'est très drôle.
Ah, mon Dieu, je fais juste y penser, puis j'ai encore les larmes aux yeux, là. Tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Moi, j'en aurais pris. Je voudrais pouvoir réécouter tous les vieux épisodes. J'aimerais que ça sorte en DVD ou que ça passe sur Netflix. Je voudrais tout les revoir au complet et dire « Ah oui, je me rappelle de ça! »
Moi, j'aimerais
ça
avoir un DVD spécial sur Bert and Ernie.
Oui.
Juste Bert et Ernie.
Aussi.
Ils sont tellement fabuleux.
Puis de voir les cutscenes. Où est-ce que les marionnettes, là, les marionnettistes, ça devient des adultes.
Ah, oui.
Parce que là, ils savent que ça n'a plus rapport pour les enfants. C'est, à un moment donné, The Grouch, il t'en sort une salée. Là,
ah oui.
Que tout le monde... C'est comme gel avant de rire, là. Mais tu fais, mais c'est extraordinaire.
Ce qui rentrerait dans ce qu'on appelle les bloopers.
Oui,
c'est
exact.
C'est de toute beauté de voir l'adulte continuer de jouer à la marionnette entre les coupures, puis d'avoir un plaisir fou avec ces marionnettes.
Et je prendrais une série d'émissions juste de ça aussi.
Ah ouais.
De toutes les cutscenes de derrière, de on vient de se tromper dans notre texte, qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'enfant, il agit pas comme il faut. Qu'est-ce que je fais avec? Regarde, j'en prendrai, là, puis... ouais, je serais pas tannée encore.
Donc, voilà, un 7, un 8.5 et un 9 sur 10 pour How We Got to Sesame Street, disponible sur Crave. Donc, si vous avez apprécié, si ça vous a donné le goût d'aller l'écouter, ben, il est disponible sur cette plateforme-là. Et il doit être disponible ailleurs aussi. Je veux pas, c'est du PBS, fait qu'il doit être disponible.
Ben, dans le fond, là, c'est ça que...
Je me demande s'il est même pas en DVD aussi, peut-être. Hein.
Ouais, peut-être. C'est juste que, dans le fond, HBO, là, il y a une sorte de vente, là, dans le fond. Les Muppets ont été vendus à Disney. Mais le reste de ces émissions appartient quand même à la société mère de Jim Henson Production. Ouais. Mais c'est avec PBS, puis ils ont été sur HBO Max pendant un bout, fait probablement là, que c'est peut-être en ligne YouTube, on pourrait peut-être le voir, là, faudrait voir.
Mais bref, voilà, donc How We Got to Sesame Street sur Crave. On passe à notre cinquième documentaire disponible sur Netflix, documentaire de 2022. D'une grosse durée d'1h34, donc on reste encore dans notre le range normal d'un film, en guillemets. On parle ici de The Anthrax Attacks. Donc on parle dans ce documentaire-là de l'événement de l'attentat au anthrax qui a suivi les événements du 11 septembre.
Mm-hmm.
L'événement, pour faire un rappel, ou pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, c'est des gens qui ont reçu une lettre avec un message pas haineux, mais terroriste, avec une substance sur les lettres qui est de l'anthrax, qui est une
c'est le bacille du charbon, là, c'est une bactérie. Là.
C'est ça, c'est comme devenu une attaque biologique.
Oui.
Et toute l'enquête qui a suivi sur cette attaque-là, parce qu'il y a trois endroits qui ont su cette lettre-là. Il y a le studio NBC.
Oui, cinq lettres au total.
Il y a un bureau de poste.
Je vais te dire, je l'ai là. Cinq lettres, ABC News, CBS, NBC, New York Post, et puis National Enquirer à Boca Raton.
Voilà.
Donc, cinq lettres qui est envoyées.
Voilà, donc le documentaire explique vraiment toute cette histoire-là et toute l'enquête. Et il nous le présente un petit peu différemment d'un documentaire habituel où on voit des entrevues avec les personnes qui l'ont vraiment vécu. Il y a une des personnes dans cette série-là qui ne peuvent pas interviewer pour des raisons que vous allez comprendre en écoutant le documentaire. Donc, pour le remplacer, ils ont pris un acteur pour le jouer. Et quand tu prends l'acteur et que tu compares la photo du personnage, ils ont vraiment bien casté. L'acteur, c'est Clark Gregg, ceux qui connaissent Marvel et les agents de S.H.I.E.L.D. C'est lui qui faisait Phil Coulson, donc c'est lui qui faisait dans les premiers films du MCU, c'est lui qui le joue aussi dans les agents de S.H.I.E.L.D. Donc Clark Gregg joue un des personnages qui fait partie de cette histoire-là. Hugo, tes commentaires sur The Anthrax Attacks?
Et moi, je me souvenais vaguement des attaques en Anthrax en 2001.
2001.
Si je me souviens d'avoir vu ça... Et je me souvenais pas comment ça a fini.
Ouais, j'avais aucune idée comment ça avait fini en réalité.
Et en écoutant le documentaire, je comprends pourquoi qu'on a jamais su comment ça a fini. Parce que ça a jamais vraiment fini.
Ouais.
Ça a passé. Ben, je ne reviendrai pas nécessairement, je vulgaire. Ben,
l'affaire a fini par être close. En guillemets, par le FBI. Ils ont finalement décidé de. Okay,
mais ils ont fermé ça en 2010, je pense, là, de mémoire. Ouais. Mais ça reste que. Okay, on a entendu parler, mais peut-être parce que c'était plus loin, que c'était pas ici au Canada. Il n'y avait pas eu de folie un peu.
Ben, on a entendu beaucoup parler quand c'est arrivé.
Oui.
Puis, comme le documentaire le présente, à un moment donné, il y a vraiment un long gap de temps avant que les médias réapprennent quelque chose de vraiment concret. Fait que c'est sûr que nous, ici au Canada, on a peut-être moins eu ce feedback-là.
Oui, parce que entre le début et la fin du documentaire, là, je pense que c'est quelque chose comme 7 ou 8 ans. Entre le début puis la fin de l'enquête avec le FBI. Comment j'ai aimé ben, le documentaire, j'ai ben, les reenactments, là, quand ils refont là, les scènes avec Clark Gregg, c'est sûr que c'est un acteur que j'aime bien. C'était correct. Est-ce que c'était. Je pense que j'aurais mieux un acteur pas connu parce que je l'associais à Phil Coulson un peu dans ses comportements. Je trouvais qu'il était bien, mais il était un petit peu trop caricatural. C'est sûr que là, le gars qui est, dont il parle, là, qui est quand même, ouais, je dirais ça, le docteur, là, Bruce Edwards Ivins, c'est un bizarre un peu, donc il joue bien parce qu'il a l'air d'un peu d'un bizarre, mais je trouve que ça m'a un petit peu distrait du documentaire.
Même que je pourrais même rajouter que le fait d'avoir vu cet acteur-là, moi dans ma tête, sachant pas comment ça finissait, je vois un acteur que je connais jouer le rôle d'un des personnages qui a vécu. Moi, ça a fait OK. C'est clair et évident que la personne qui joue est un élément hyper important de la série, du documentaire et de l'histoire. Donc, soit qu'il est vraiment arrivé quelque chose de grave à la personne, c'est pour ça que c'est un acteur qui le joue, ou c'est probablement la personne d'intérêt le plus important de tout le documentaire. Donc, c'est un petit peu dévoiler le punch en même temps.
Oh, et le fait que ce soit pas Dr. Ivins qui est là,
C'est ça. Mais à la limite, ça aurait pu être n'importe qui d'autre de pas connu du tout. Je n'y aurais vu que du feu.
ouais, c'est sûr que
Tu
oui, c'est
sais?
ça. Ça m'a un petit peu distrait. C'était intéressant de connaître l'histoire de ce qui s'était passé. Parce que, comme je disais, on a comme peu entendu parler après le. Mettons, ça s'est passé, ça a commencé début mi-septembre 2001. Puis après le mois d'octobre, on entendait moins parler ici. Fait que là, c'est comme. Ok, ben ça s'est essoufflé. Je
Ah, puis
pensais pas qu'il avait
veux pas,
enquêté pendant.
c'est arrivé aussi en même temps que les événements
C'est en
du 11
septembre.
septembre qui
Oui,
est resté dans les
c'est
médias
une
pendant
semaine
vraiment
après.
longtemps. Tu sais?
C'est une semaine après le 11 septembre que ça commence la première lettre. Fait que là, tu te dis, bon, OK. OK, ben, c'est quelqu'un qui veut surfer sur la vague de terrorisme, etc. Et on comprend que c'était pas ça du
C'était
tout,
pas
là,
du tout un
que
terroriste.
le gars, c'est pas un terroriste, là. Il avait comme son plan, son idée. Il était un petit peu désillusionné.
On comprend que c'est une attaque interne.
Oui, absolument.
T'sais, alors que les médias au début présentaient ça vraiment comme une attaque
Oui.
terroriste
Non, non, c'est à
du pays en
l'intérieur. C'est
question,
un Américain qui
c'est
les
vraiment un
envoie.
Américain, là.
C'est ça, j'étais comme content de savoir comment ils ont fait l'enquête. C'est très science, c'est très technique là, au niveau de comment ils trouvent la souche originale, ta, ta, ta. Ça peut être un peu lourd par certains moments. J'ai trouvé qu'à un moment donné, il faut que tu portes attention parce qu'ils vont donner des noms de prélèvements. Ok, oui, c'est lui, c'est celui-là. Lui, c'était pas lui. Puis là, il y a une mutation. Tu sais, ça devient très technique. C'est sûr que moi, ça m'intéresse quand même, fait que j'étais pas trop perdu, mais à un moment donné, j'ai dit, OK, ouais, t'as peu, là, faut, je reculais pour. Je suis sûr d'avoir bien compris, ouais, OK, on repart. Fait que c'est ça. Je pensais pas qu'il y avait enquêté pendant des
Non,
années
moi non plus.
avant d'avoir un développement.
J'ai bien aimé qu'ils parlent un petit peu plus longuement de leur bévue au bureau de poste. De
Oui.
leur raté complet au bureau de poste. Là. De dire, OK, non, c'est beau, il n'y a rien, vous pouvez continuer de travailler.
Mais que les enquêteurs se promènent en soute en
Ben,
scaphandre.
c'est ça, là. Alors que clairement, tout le monde voit que non, il y a vraiment un problème. Il peut arrêter de nous dire que tout est OK. Et finalement, quelqu'un est mort de cette situation-là,
Oui.
de cette erreur-là, tu sais.
Oui, puis c'est ça. Puis il y a des gens sur place aussi, là, qui travaillent au bureau de poste, justement,
Ils sont encore malades, hein?
qui sont encore malades, ils ont arrêté en 2001 lors des attaques, tout ça. Fait que là, tu te dis. Puis là, je veux pas viser, ce sont tous des gens issus d'origine ethnique qui travaillent dans le bureau de poste. Parce que c'est des travailleurs manuels, etc. Tu te dis, je veux pas me porter d'accusation, mais est-ce que le gouvernement se disait, tu vois, leur vie en valait dessus, tu sais, puis on le voit dans
On le
ça.
voit de par la réaction que le gouvernement a eue au studio NNBC puis au bureau
Exactement.
gouvernemental,
Ouais.
où ça a pris 24 heures, tout le monde est sorti, tout le monde a été testé.
Tout le monde a les doses de
Ouais,
vaccin.
alors que là, on est dans un petit bureau de poste, dans je sais plus trop quel état, du centre des États-Unis, un petit peu plus reculé.
Dans le coin de. Je vais regarder, là, je l'ai devant moi.
Un petit peu plus reculé, où justement, c'est pas du monde important, entre guillemets, c'est le commun des
Ouais,
mortels.
c'est ça.
Donc, est-ce que c'est le même que le gouvernement l'ont vu, puis ont fait, bof, on s'en fait pas trop? disons qu'on nous indique un peu que c'est peut-être ça qui ont c'est peut-être comme ça qui ont réagi, sans nécessairement porter de d'accusations concrètes. Je pense que l'auditoire est capable de prendre de faire ses propres opinions.
Absolument.
L'État? Tu l'as pas trouvé?
Ben c'est ça que je suis en train de regarder. C'est parce que c'est dans l'État dans le Washington DC, mais le bureau de poste, c'est à New Jersey, Franklin Park, New Jersey.
Ah, ça se peut.
Je crois que oui.
Mais tu sais, c'est ça. C'est un bureau de poste, c'est pas gouvernemental, c'est pas public, c'est pas médiatique.
C'est ça.
On va essayer de passer ça en dessous du tapis sans trop que personne s'en rende compte. Puis finalement, ben il y a quelqu'un qui est décédé, puis il y a du monde qui est encore malade aujourd'hui à cause de cette erreur-là. T'sais. Donc j'ai quand même bien aimé qu'ils nous présentent ça sans avoir peur de nous présenter ça. Là.
Oui.
J'ai beaucoup. Comment je pourrais dire ça? J'ai aimé. Tu parlais justement que l'acteur t'a distrait.
Oui.
Mais j'ai quand même aimé la façon qu'ils ont apporté le personnage de Bruce Evans. Comment ils nous l'ont présenté par cet acteur-là. Même si, à mes yeux, ça spoilait un petit peu la fin. On dirait que ça m'a comme. Moi, personnellement, j'ai porté plus attention à ces moments-là qu'aux autres moments du documentaire où on nous présente un petit peu plus le contour.
Oui, parce que oui, je comprends. Je comprends qu'il parle quand même des côtés techniques aussi, puis qui vont nommer là, les motivations on apprend les motivations d'Ivins, on va dire pourquoi
qu'il a. Puis il nous présente aussi même. Il y a des extraits où on voit l'acteur parler devant une caméra.
Oui.
Puis en même temps, il nous présente les extraits écrits réels de ce que le vrai Bruce Ivan a dit réellement. Il nous montrait que, gars, c'est pas juste un jeu qu'il fait, c'est vraiment ça qui a été dit. Donc ça, j'ai trouvé ça correct de leur part de pas nous faire croire que c'est un texte. Donc, ça, c'était le fun. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait.
Mm-hmm.
Il y avait quand même un bon mix, justement, entre ce qui est présenté par l'acteur puis tout ce qui est autour, tout le contour, toutes les entrevues, toutes les explications. Je trouve que c'est quand même un documentaire qui est bien monté d'une façon classique d'un documentaire. Donc avec les entrevues de personnes qui l'ont vécu et le reenactment avec Claude Gregg. Je pense que c'était un vrai bon documentaire
comme on classique, les connaît.
Comme on les connaît. Là.
Oui.
Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur The Anthrax Attack.
Non,
je pense que le gros a été dit. C'est un événement qu'on a tous, qu'on se souvient tous, mais comme tu dis, qu'on a rapidement oublié. Donc c'est quand même intéressant de voir ce documentaire-là pour nous rappeler c'était quoi, puis pour nous expliquer comment ça s'est terminé. Sur IMDb, c'est un 6.2 sur 10, sur environ 1200 votes. Et sur Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, 9 commentaires, 89% de notes. Et pour l'audience, moins de 50 commentaires pour 56%. Donc, je pense que les critiques ont apprécié le contenu, alors que l'audience ont peut-être moins aimé. Pour quelles raisons? Chacun a sa propre opinion. Pour moi, c'est un 7.5 sur 10. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai beaucoup appris sur quelque chose que je connaissais pas vraiment beaucoup. Donc moi, c'est ce que j'aime d'un documentaire, quand un documentaire est capable de m'apprendre quelque chose et de me garder en haleine du début à la fin, ce qui, je crois, Anthrax Attacks est capable de faire. Moi, c'est ce que je cherche dans un documentaire, donc moi, c'est un 7.5.
Ben, je veux 7.5 sur 10 aussi, parce que je t'en rejoins en disant que j'ai appris comment ça s'est closé, cette enquête-là, ce que je savais pas. Fait que je disais, je suis content d'avoir su qu'est-ce qui s'est passé. Même si ça finit un peu en queue de poisson, là, tu fais comme, on en déduit, c'est beaucoup circonstanciel.
Ouais.
Mais bon.
Mais c'est quand même comme ça que ça s'est terminé pareil.
T'sais. Oui, en 2022, puis il n'y en a pas eu d'autres.
C'est ça.
D'après moi, ils ont trouvé la bonne piste.
C'est ça. Donc, un gros 7.5 sur 10 pour The Anthrax Attack, disponible sur Netflix. On passe maintenant au dernier documentaire de cet épisode mensuel, disponible cette fois-ci sur Crave. Il y a une série sur Netflix aussi.
Que j'ai commencé aussi.
Qui en parle. Est-ce que c'est similaire au
Oui.
film ou ça va plus en détail un petit peu?
C'est l'approche est pas la même.
L'approche n'est pas la même. Ok. On parle du film, cette fois-ci, sur Crave de Woodstock 99, Peace, Love and Rage.
Ouais, c'est HBO Max qui a produit ce documentaire-là.
Ouais, donc la raison pour laquelle il est sur Crave.
Bien sûr.
Donc, le titre le dit, Woodstock 99, ça parle de l'événement de Woodstock qu'il y a eu en 1999,
Absolument.
Qui célébrait les 30 ans
Oui.
du Woodstock original. Et c'est le même gars qui a fait Woodstock 69, qui a fait Woodstock 94, qui a
Woodstock
fait
99.
Woodstock 99.
Et je vous confirme qu'il a essayé de faire Woodstock 2019
Ouais.
pour les 50 ans.
Ouais. Puis ça a planté.
Ça n'a pas eu lieu, mais honnêtement, je ne sais même pas pourquoi il a essayé de faire
non, moi non,
Woodstock
moi, moi non plus,
2019.
parce que ceux
Quand
qui
tu
ont...
écoutes le documentaire de Woodstock 99, tu te dis... Ouais, tu
ouais
pas
c'est ça. Pour ceux qui se souviennent de Woodstock 99, comme moi, je m'en souvenais, moi, je me souvenais que ça avait dégénéré le dimanche. Je me souvenais que j'avais vu des images à Musique Plus
ouais.
comme quoi ça avait dégénéré. Donc, moi, dans ma tête, c'était « Ok, Woodstock 99 », c'était un bon festival, mais ça a dégénéré en fin de journée le dimanche. Waouh, que j'étais pas dedans!
Ouais, oui, mais non.
Tu sais, ça dégénérait du début à la fin. Là.
Dès le vendredi,
ah,
ça
ouais,
commence
ouais.
à déraper.
Et c'est ce que j'ai adoré de ce documentaire-là.
Ah,
moi,
oui.
pour moi, des 6 documentaires qu'on parle, c'est celui que j'ai le plus aimé. Ça parle de musique, veux pas, j'adore la musique.
Ouais, puis tous des groupes
et
de nos années, des styles
des,
de nos
de la musique de nos années, avec qui on a grandi. Et même, ils ont essayé de ramener certains groupes de l'époque aussi. Ça
Non, ça a pas marché partout. Là.
Ben, tu sais, ça a marché dans un sens parce que le monde était tellement pété qu'ils se rendaient pas compte qu'ils savaient pas trop qui
ouais.
était sur scène. Tu sais, je veux dire, The Roots.
Oui.
Tu mets ça dans un festival de hard rock, le monde ne comprendra pas pourquoi c'est là.
Non, c'est ça.
Mais là, le monde dansait pareil, puis chantait pareil, mais tu compares The Roots à tous les autres styles musicaux qu'il y a eu dans ce festival-là, et il était pas à sa place, là, tu sais.
Je vais sortir le line-up.
Tu sais, The Roots, puis Alanis Morissette, puis c'était qui l'autre fille? Jewel.
Jewel.
Hey, ça fitait pas avec le reste du programme de Limp Bizkit, Metallica, Kid Rock...
Offspring,
puis
je suis en train de sortir le.
Hey, c'était vraiment du gros hard rock tout le long du festival. Et ça montre à quel point il y a plusieurs groupes qui ont profité de l'événement pour propager
oui.
vraiment très facilement quelque chose qui n'avait pas sa place dans un festival qui essaye de promouvoir la paix et l'amour dans le monde.
Oui.
D'où le nom Peace, Love and Rage.
Mais dans le fond, là, puis je me souvenais pas que. Puisque là, t'en as parlé en intro de Woodstock 94.
Ouais.
Je me souvenais pas que Woodstock
Moi
94 avait existé. Et dans Woodstock 94, on était beaucoup plus dans. Il y a les Cranberries, on était beaucoup
ouais.
plus smooth dans,
ouais.
dans le même mindset un peu que Woodstock original, la
ouais.
69. Et là, ils ont voulu. Ils l'expliquent dans le documentaire, là. Qu'ils ont voulu faire, dans le fond, que ça, avec profiter de MTV, de la l'espèce de popularité, le grand public de la musique qu'on voyait. T'sais, nous, c'était Musique Plus,
ouais.
mais les trucs arrivaient de MTV, etc. Qu'ils ont voulu profiter de la lignée MTV et de faire un festival avec ça. Sauf que. Les bandes que. Puis là,
la
band
n'était pas super.
C'est Limp Bizkit, Korn, Red Hot Chili Peppers, The Kid Rock, Metallica, Creed, plus d'autres, DMX. Et c'était pas. Ben, c'était pas une bonne idée en partant. Et là, on se rend compte qu'avec.
Ben,
le temps,
c'était pas que c'était pas une bonne idée, c'est que ça a mal été choisi pour ce que le festival se voulait être.
Mais encore là, tu vois maintenant des festivals. Festivals?
Festivals.
Festival, hein? Ouais, festival.
Chaco, c'est
ça. Chaco.
D'accord.
On en voit maintenant où ce line-up-là existe, puis ça va pas dégénérer comme Woodstock 99.
C'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'événements qui ont appris aussi des ouais. erreurs de Woodstock 99.
Ouais, il parle,
De Coachella.
Coachella, le premier Coachella, tout de suite après
tout Woodstock. Tout de suite après, qui s'est super bien déroulé. Puis pourtant, qu'il y avait un espace, je crois, quasiment aussi grand, sinon ouais. plus grand que ce que Woodstock avait.
Mais dans le...
Aussi, en partant, ouais. veux pas, il explique que le show se passe dans une ancienne base militaire.
Ouais, c'est ça.
Waouh, déjà là, en partant, 0-1 pour les concepteurs du festival. Tu veux promouvoir la paix et l'amour, puis t'as mis ça dans une base militaire.
Ouais, il expliquait ça, puis c'est là que je m'en allais. C'est qu'en 94, le problème qu'ils ont eu, c'était que il y avait... Le monde passait en dessous des barrières, etc., puis ils ont perdu de l'argent. Ouais. Et la ville de Rome, dans l'État de New York, venait de faire fermer sa base militaire par l'armée américaine. Donc, ils parlaient de plusieurs milliers d'emplois qui avaient été perdus. Eux autres se sont proposés pour dire « Mais nous, on va accueillir votre festival. » Parce que ça va faire des revenus à la ville. Et on a une installation, tout est clôturé, il y a deux entrées. Fait qu'il n'y aura pas de vol d'argent, tu sais, les gens vont devoir payer. Il y a déjà des voies de circulation asphaltées, vous allez pouvoir circuler, vous installer. Non pas parce qu'en 94, il y avait de la boîte, pas pire. Fait que là, c'est libre. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais l'idée de base, je peux comprendre le concept de base. Ouais.
Mais le public l'a pas vu de même. Et non seulement ça, mais le public cible...
C'est ça que j'allais dire.
...était à 99% des jeunes blancs de 18 à 25 ans.
C'est fou, il y avait 4 noirs.
Ce n'était que ça, là.
C'est fou, comment...
C'était des jeunes qui me semblaient, oh mon Dieu, tellement frustrés de la vie et du monde.
Des jeunes fâchés.
Ben, c'est ça. Fait que t'amènes des jeunes fâchés... avec des groupes hardcore qui promouvoient beaucoup la haine
oui.
et la destruction et combien de chanteurs ont crié fait détruisez tout, pétez tout, gâtez-vous. Ouais,
il a encouragé la foule à faire du saccage.
Oui.
Puis
ils ont eu le problème de OK oui, on a juste deux entrées. Oui. Les gardiens de sécurité, ils ont fait une job de boîte.
Ben, c'était des, genre, je l'ai dit,
parce que c'était bénévoles. C'était des bénévoles, puis c'était aussi un range d'âge de début vingtaine. Puis le gars, il avait un gars, je te donne un sac de coke si tu me laisses passer avec ma bière. Ok, c'est beau!
Ouais, mais il expliquait que les gardiens de sécurité enlevaient.
Ça me fait quasiment penser aux trucs, là. Les trucs dans l'eau, là. Le manège d'eau. Voyons.
La pitoune?
Mais c'était un parc aux États-Unis.
Ah oui, le documentaire.
Où c'est que le gars, il dessinait des affaires sur des napkins, puis il disait, vous allez me faire ça.
Ah oui, c'est débile, ça.
Puis là, c'était comme, regarde, je te donne une passe gratis si t'essayes ça. Puis le gars sortait de là, la face en sang, avec des dents qui manquaient.
Oui.
Puis là, c'était comme, OK, next, on va mettre plus d'eau. Qui veut y aller le prochain?
C'est malade. C'est Extreme Water Park ou ça?
Ouais, quelque chose de même. Ça me fait penser à ça parce que c'est tout mené par des jeunes.
C'est
con. Fait que la moitié sont sous, l'autre moitié est gelée, puis ça surveille personne. Puis il disait que des fois, il arrêtait la piscine à vagues pour voir s'il y avait des morts dans le fond. C'est pour les sortir, faire partir la machine. C'est...
Le documentaire s'appelle Class Action Park.
C'est
un document au New Jersey, là, c'est terrible.
Ça fait
si
peur.
Vous pouvez, regarde, on va en plug un autre, mais c'est sur, je crois que c'est sur, c'est-tu sur Netflix, non? Je pense que c'est
sur Crave aussi. Non, moi, je l'avais écouté sur...
Super écran, c'est sur Crave. Crave. Class Action Park, là, ça vaut vraiment la peine, dans la même lignée. Il explique à Woodstock, les gardiens de sécurité enlevaient le t-shirt de sécurité pour aller faire le party aussi. C'était...
Ah, ben, à un moment donné, il n'y avait juste plus de sécurité.
Non, on n'avait
plus. Après, à la fin de la première journée, il n'y avait plus de sécurité, puis le monde rentrait à bon...
Il disait après, à la fin de la première sécurité, la journée aussi, il y avait, les toilettes étaient pleines.
La première journée, les toilettes ont débordé.
Ouais, il faisait 104 degrés Fahrenheit.
Et la boîte qu'on voit sur le terrain,
c'est...
ce n'est pas que de la boîte.
Il y a aussi beaucoup de matière fécale.
Énormément d'excréments. Fait, quand on voit des images de Woodstock 99 avec du monde se rouler dans la boîte et avoir se mettre de la boîte d'en face... Dude, c'est pas de la boîte que tu te mets en face présentement là. Fait que l'odeur qui devait dégager de là, ça devait être affreux.
Les bouteilles d'eau à 4$, on parle en 1999. Il y avait pas de. Il y avait des points de ravitaillement d'eau, mais les gens se lavaient dedans.
Les gens prenaient leur douche dedans, les gens rentraient dans les bacs d'eau pour se laver. Une
histoire de viol dans les douches.
Oh, énormément d'histoires de viol. Il y a un commentaire qui disait qu'il était. Je pense que c'était le dimanche justement ou le samedi soir ou pour je sais plus trop quel show. Et en avant, quasiment quasiment front face de la scène.
Oui.
Puis il y a trois gars qui sont carrément en train de la violer live, dans right full. There. Puis il y a personne qui a rien fait, là.
Ah, c'était capoté. C'est complètement débile.
C'est capoté. Puis il parle de plein d'histoires de ce genre-là. J'ai rarement vu un documentaire avec autant de sang.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup, beaucoup de
c'est poitrine. C'est épouvantable, la quantité de poitrine, la quantité de femmes qui ont montré leur sein dans ce show-là. Et de gars qui, évidemment, réagissaient en tant que gars. Il dit, tu veux me montrer tes seins, fine, moi tes poignets, tu sais.
Mais là, je vais... Puis il montre un extrait, mais Dexter Holland de The Offspring, qui fait un speech en disant, c'est pas parce ouais. qu'une fille fait du crowd surfing quand elle se montre les seins, c'est parce qu'elle veut se faire poigner.
Ouais. Puis après ça, il dit, si jamais... Si
elle voyait des gars
poigner... Si un gars poigner le sein de quelqu'un, pognez-y les couilles. réagissez vous autres aussi. Si les gars ont le droit de vous pogner les boules, mais vous avez le droit de leur pogner les couilles aussi, tu sais.
Ah, c'est débile. À un moment donné, tu sais, ça escaladait, puis là, il commençait, écoute, il voit la foule jeter des structures par terre, ils ont mis le feu, il y avait des feux, là, ils mettaient des tentes, des tables en feu, des immenses feux de joie dehors, là, ça avait pas de bon sens, là, c'était...
Ah, puis ça, c'était le samedi soir, c'était même pas le dimanche, que moi, je me souviens que ça avait dégénéré, c'était le samedi, là, on était jour 2.
Il parlait de... Puis c'est parce qu'après ça, ils s'en vont voir...
En tant que band, comment tu peux être fier de ça?
Ah, il y a des bands qui font le commentaire, qui disent justement qu'ils réalisaient pas à quel point c'était rendu de même, puis ils étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait, puis il y a d'autres bands, les autres en calissaient complètement, puis les autres ils chantaient. Je me souviens plus c'est quelle band que, à un moment donné, la production en arrière, elle dit « Ok, non, faut que tu calmes le jeu, là. »
Mais c'est les Red Hot Chili Peppers.
Dis-leur de se calmer.
Ils vont t'écouter. Ils ont fait Fire de Jimi Hendrix.
Oui.
Fait que le monde
a mis le feu. Ils ont fait carrément le contraire que ce que la production voulait qu'ils fassent. Ouais. Fait que, tu sais, t'as des bandes qui essayaient d'aider, puis d'autres qui, eux autres, se foutaient carrément. Fait que, tu sais, ça a vraiment été un bordel monumental.
Oh, oui. Il disait Recipe for Disaster. Là.
Ouais.
C'est quand t'analyses tout ça, tu te dis, ouais, ça pouvait pas marcher.
Ah ouais.
Après coup, là, tu te savais.
Il y a du monde qui sont morts dans cet événement-là.
Ouais,
ils suivent justement l'histoire d'un des gars qui, de par son journal, ils font comme genre, t'as des scènes où ils lisent le journal du gars. Ils disent, soir, aujourd'hui, il y avait trop de monde, il fait trop chaud, je suis allé voir telle chose, j'ai vu telle personne.
Mm.
Je suis rendu à ma 16e paire de boules, je pense, j'ai arrêté de compter. Tu sais. Tout le long, puis le dernier bout, c'est « Asseoir, c'est Metallica, je m'en vais dans le mosh pit. » Puis son ami raconte que le lendemain, la crème, il est pas revenu au campement. Il passe sa journée à le chercher. Puis finalement, il se rend compte que « Ah ben, Chris, il est à la morgue, il est mort. Il est décédé d'hydratation. »
Il est déshydraté. Il pensait qu'il avait consommé, dans le fond. C'est qu'il était sous l'effet. Puis ils l'ont traité pour ça. Puis finalement, il est mort de déshydratation.
Ouais. C'est fou. Puis il y en a d'autres de même qui parlent pas, mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres décès de ce genre-là. Il y a un commentaire à Monet qui dit que le gars voit une fille sur une civière en train d'être amenée. Puis je me suis rendu compte, OK, la fille, il n'y a pas de pantalon, rien. Puis le gilet qu'elle porte, c'est le gilet du garde qui est en train de la monter dans l'ambulance.
Fait qu'elle était tout nue.
Fait que la fille était carrément nue au sol, en train de crever sur place, là.
C'est trois morts, qu'il disait.
Ouais.
C'est
épouvantable.
C'est des choses épouvantables qui se sont passées durant cet événement-là. Et il compare, il y a eu un autre documentaire sur Woodstock, 99,
oui.
qui embellisse l'événement. Et même pour Woodstock 69, parce que Woodstock 69 aussi, ça a pas été de tout rose, là.
Non, c'est ça, puis le journaliste, il dit, tu sais, on nous dit à Woodstock, c'est peace and love,
ouais,
avec
ben
ça.
Non.
Il dit, c'était pas ça pantoute, il dit, c'est l'utopie qu'on se fait de Woodstock.
C'est ça.
Puis c'est dans cette lignée-là que le producteur, le gars qui a fait Woodstock, qui a créé ça, puis pour lui, là, c'était comme, oh, tout est beau, on va partir, ça a vraiment pas d'allure.
Ouais. Fait que moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce documentaire-là, à quel point il nous présente vraiment tout ce qui a pu mal aller dans ce festival-là, puis les raisons que ça a été amené à ce festival-là. À tous les jours, il y avait une conférence de presse avec les créateurs, puis avec la production, puis la sécurité.
Ouais.
Puis à un moment donné, tu vois que le monde qui se font poser tes questions patine et patine.
Ils n'ont pas de réponse.
et ils n'ont aucune réponse. Et ils savent qu'ils ont merdé complètement, puis qu'ils peuvent juste pas sortir de cette situation-là. C'est épouvantable. Moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup adoré de ce documentaire-là. Et le fait de voir tout plein de Ben que j'aimais beaucoup, que j'avais pas nécessairement la bonne opinion pour certains Ben. Moi, j'aimais beaucoup Kid Rock, mais la façon que j'ai vu Kid Rock agir sur scène à Woodstock 99, ça a fait waouh!
Ouais.
Waouh, ouais. Que ça a pas sa place, c'était épouvantable.
Non, c'est.
Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Woodstock 99.
Oui.
C'est le documentaire que j'ai préféré dans les six. Je le recommande très, très, très chaudement à tous. Au niveau des critiques sur IMDb, c'est un 7.1 sur 10.
Okay.
Je n'ai pas vu la quantité de votes, du moins je ne l'ai pas noté. Sur Rotten Tomatoes, je n'ai même pas trouvé Woodstock 99 Rotten Tomatoes. J'ai fait tous les mots-clés possibles que je pouvais trouver. Je n'ai pas trouvé Woodstock 99 sur Rotten Tomatoes. Il parle de la série qui est disponible sur Netflix, mais il ne parle pas du film du tout, du tout, du tout. À moins que tu trouves et que tu puisses me corriger.
Oh, je peux aller voir.
Dans tous les cas, ma note à moi, c'est un 8.5 sur 10. Pourquoi pas 9? Ben, parce que ça me tentait pas. Je voulais mettre 8.5, tout simplement. Fait que 8.5 sur 10 pour moi, Bedu?
Je vais y aller avec... Non, 8.5 aussi. Je pense que... Vraiment.
Ouais.
C'est une vision... C'est sûr que dans ces années-là, moi, j'avais... J'écoutais pas MTV. Tout ça, c'est pas... en 99, j'étais en transition, je partais j'arrivais à Québec, j'arrivais de Montréal, j'avais pas de câble.
Ah, c'était mes débuts de cégep. Fait que moi, ouais, j'étais sur Musique Plus très régulièrement.
Fait que j'avais pas, j'étais dans l'époque où j'avais pas le câble chez nous. Fait que j'ai vu ce que j'avais vu aux nouvelles. Ouais. Je connaissais les gros. Fait que ce que j'ai aimé, c'est apprendre le ce qui s'était passé, ouais. Le pourquoi du comment. C'était vraiment, là, j'ai beaucoup aimé le documentaire. Quand je le commence, je voulais vraiment, genre, le continuer. Vraiment au complet. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais jeter un coup d'œil sur celui sur Netflix, ouais. Qui s'appelle Trainwreck.
Trainwreck, c'est lui qui monte sur Rotten Tomatoes.
Ouais, c'est ça. Voir un peu, là, qu'est-ce qu'il y en est.
Moi, ben, je ne l'ai pas écouté, mais après vous avoir écouté, c'est clair que je veux l'écouter.
Ouais.
Alors, c'est vraiment très très bon. Si vous avez un documentaire à écouter parmi tous ceux-là qu'on vous a présentés, je pense qu'il y a Woodstock 99 et celui à aller voir. Je pense que ça va intéresser tout âge et toute personne, que vous aimez la musique ou non. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, juste pour voir à quel point un événement qui était fait pour le bonheur de tous, et le monde qui ont peinturé sur les murs des belles fresques justement d'amour,
peace and love.
Et qu'à la fin ces fresques-là étaient rendues à terre tout détruites.
Ouais, ça servait à alimenter le feu.
Ça a vraiment juste ça, c'est l'image parfaite, je pense.
Ouais.
De ce qu'on voulait et de ce que ça finit par être.
Mais ouais, angry white male.
Ouais, vraiment,
c'est vraiment
ouais.
Ça.
Oh, ouais, vraiment.
Pas d'eau, pas de toilette, avec accès à de la drogue.
Alcool, drogue et viol. Là.
Something.
Oui. Oh, ouais, tu sais, c'est Peace, Love and Rage. Ça aurait pu être aussi appelé pour War, Hate and Rape.
Ouais.
Hein? Quand même, hein?
J'ai rien à rajouter.
Voilà, c'est ça. Alors, voilà, Woodstock 99 disponible sur Crave, d'une durée d'une heure 50, mais c'est une très bonne 1h50. Merci à tous d'avoir été à l'écoute pour cet épisode. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Et nous, on a eu beaucoup de plaisir.
Définitivement.
Je pense qu'un documentaire, un épisode documentaire par saison, c'est un bon spécial à continuer. Je pense que les documentaires sont sous-évalués. On le voit de par les critiques sur les sites. Très peu de critiques, très peu de notes sur des documentaires.
Et nous, on va le faire.
Nous autres, on va le faire pour vous autres. Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute. Merci Bedu d'avoir été là. Merci Maryse pour tes points très, très constructifs. Prochain épisode, 7 novembre. C'est moi-même qui fera la capsule express. Je vous parlerai de She-Hulk. Très brièvement.
De 4 minutes.
Je vous parlerai également de la série Star Wars Andor, disponible sur Disney+, ainsi que Star Wars Tales of the Jedi, disponible également sur Disney+. Donc, une petite capsule express spéciale Disney+. Ensuite, on se revoit le 14 pour encore une capsule présentée par moi-même sur le jeu PS5 Gotham Knights. Et ensuite, le 21 novembre, Bedu vous présentera le film Enola Holmes 2, disponible sur Netflix. On a parlé du premier dans nos premiers épisodes.
Oui, il sort le 4 novembre.
Il sort le 4 novembre, donc on vous parlera de Enola Holmes.
Avec moi, ça va être 4?
Ben, tu pourras la faire avec Bedu sur Enola Holmes.
Ben non, je t'avais lancé une idée, mon cher.
Oui, mais je la garde pour plus tard.
Ah, d'accord. Je te pardonne d'abord.
Bon, voilà, c'est les Capsules Express à s'en venir. Et le 1er décembre sera notre spécial Temps des Fêtes, avec films et séries spéciales thématiques Temps des Fêtes. Et ce sera des Capsules Express thématiques Temps des Fêtes durant tout le mois de décembre. Question de mettre...
J'ai hâte, Santa Claus, la série commence.
Ouais, non, ça va être très sympathique. Donc, restez à l'écoute pour ça. Et d'ici là, ben écoutez, il y a plein de choses à écouter. Il y a des bons documentaires à écouter. Il y a des bonnes séries, films à écouter. Des bons jeux aussi à jouer. Donc, gâtez-vous. Page Facebook également, la critique de Yugi. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, des idées ou peu importe, n'hésitez pas à les commenter, nous faire un petit post. C'est toujours très apprécié. Puis sinon, ben, j'arrête de parler, j'ai la gorge sèche.
Sèche.
Et c'est ça. Donc merci à tous et on se revoit la prochaine fois pour une autre critique de Yugi.
Bye bye.
Ciao tout le monde.